Warning.
Attention, dans ce podcast, on balance tout plein de spoilers. Vous êtes prévenus.
Hey buddy, you got a dead cat in there or what?
Fuck you, asshole.
Уж не собираетесь ли вы учить меня смыслу жизни?
Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle.
The robots are coming.
I want more life, fucker.
24 secondes.
Nous sommes le 23 octobre 2016, bonjour et bienvenue au 45e épisode de 24 quarts de seconde, le podcast des mordus de cinéma de science-fiction. Je suis Nicolas Petzilas et à mes côtés Marie-Louise Gariepi.
Salut.
Et avec nous ce soir, il est réalisateur de films documentaires et tu prépares une maîtrise en cinéma à l'Université Concordia.
Oui.
Pierre-Luc Junet, bienvenue.
Bienvenue, merci.
Ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Pour la petite histoire, c'est Marie-Louise et toi qui vous connaissez.
Moi, ouais, ben, je David Simard et Pierre-Luc Junet font un projet documentaire ensemble. Et puis, c'est moi qui les aide à produire ça. Donc, on s'est connus un peu comme ça.
OK. On peut savoir à quoi ça...
Excusez-moi, je l'ai...
Le documentaire en question, c'est en fait, c'est sur l'actualité à Cuba en ce moment. Donc, c'est un film sur les changements qui s'opèrent actuellement à Cuba, changements économiques principalement. Et puis... En fait, on s'est vraiment attardé à la question de la dissidence à Cuba. Donc, qu'est-ce que les dissidents ont à dire sur les changements économiques en ce moment qui se passent à Cuba avec l'ouverture du régime avec les États-Unis. Donc, voilà, sans rentrer vraiment dans les détails, parce que je pourrais
c'est
en dire
magnifique.
Moins.
C'est magnifique, c'est vraiment, c'est vraiment c'est beau, toute la recherche qu'ils ont fait et tout, donc... C'est compliqué, c'est long, financer un film, chercher des choses. Mais on a un beau matériel de base, puis... Faudra peut-être commencer à penser à le monter, là, de façon artisanale.
Faut que je te parle de ça après.
Je suis sûre qu'ils se sont parlé de choses puis que je ne suis pas au courant.
Mais... on s'est vu dans les derniers. Mais en tout cas, on garde ça pour après.
on réglera pas ça pendant le podcast.
Non, bien sûr, on ne veut pas rentrer là-dedans. Mais... En tout cas, voilà, on est content de connaître un petit peu tes projets. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur notre site internet 24quarks.com, toujours 24quarks.com, sur iTunes aussi. Et si l'envie vous prend de réagir à une discussion, de commenter, de nous faire des suggestions, etc., vous pouvez nous contacter par courriel à 24quarks, toujours avec un S, @gmail.com. Et aujourd'hui, on s'attaque au premier volet d'une des franchises les plus connues du cinéma de science-fiction hollywoodien.
Yeah.
Et il s'agit de The Terminator de James Cameron, qui est sorti en 1984.
L'année de ma naissance.
Oh, oh.
Ouais, thématique.
Je me sens un peu vieux tout à coup. Mais
bienvenue dans mon monde.
Ouais, et voilà, pour accompagner la conversation, on a Marie-Louise, tu nous as dégoté un petit rouge américain.
Oui.
C'est un petit assemblage de cépages, d'après ce que j'ai pu voir sur l'étiquette.
Oui, Cabernet Sauvignon, Merlot, Shiraz, c'est bien, hein, il est bon.
Je l'ai pas goûté encore, mais je vais faire ça de ce pas. Donc, il est 2012.
Oui. Et la particularité de ce vin, c'est que c'est CMS, c'est le nom du vin, que je trouvais assez original et je me suis dit tiens, CMS, ça me dit quelque chose. Et c'est pas tout à fait ça, mais c'était tellement proche. Ouais. Ça me rappelait CSM, qui est Cyberdyne Systems Model, qui est le modèle du T...
Ouais, le Model 101.
T-101.
C'est ça.
Qui est le modèle Terminator. Et donc, dans les deux premiers Terminator, il mentionne Cyberdyne Systems Model.
CSM.
La première fois, c'est le personnage qui est joué par Bill, qui s'appelle Reese. C'est Reese. Right.
Ouais, Michael Biehn, ouais,
Michael Biehn qui parle de ça. Donc Reese parle de ça. Et puis dans le deuxième, c'est le personnage du Terminator lui-même, joué par Arnold Schwarzenegger, qui réfère à lui-même.
Qui est gentil dans le deuxième.
Donc c'est très geeky. Ça a
mais
été
c'est bien,
parfait.
C'est
ça a été CSM. C'est CSM.
T'as réussi à trouver un truc bien.
Ouais, puis on va américain bien sûr, parce que. Ouais.
Ben oui. Ah. Californien en plus.
Non. Washington. Non. Ah. Mais c'était ça, c'est soit avec californien.
Mais ouais, il est bon, je confirme. Il est très bon. Agréable.
Très, hein? Ben, comme tous les vins américains, corsé, du caractère. Très bien avec les popcorns sucrés que je suis en train de dévorer allègrement. Donc, si vous m'entendez la bouche pleine, mais revenons au film.
Bon, juste avant de commencer, en fait, je voulais faire un petit plug. D'ailleurs, ça va peut-être aller plus loin qu'une petite plug parce que.
On en faisait un épisode là.
Ouais, c'est ça, mais je tenais à en parler.
Alors, petite plug pour qu'on fasse un épisode plus tard.
C'est ça, c'est la série Westworld. Je sais pas si toi tu.
Westworld?
Ouais, est-ce que t'avais vu le film original de 73,
non.
74?
Oui, il était pas né.
Non, c'est aucun film avant 84. Non, j'ai pas vu.
Enfin, c'était un film de Michael Crichton. C'est le premier film de Michael Crichton.
Et peut-être seul film de Michael Crichton.
Non, c'est pas le seul. Il y en a d'autres.
L'écrivain,
pas le film. Oui, absolument.
Jurassic Park, là.
Oui, absolument. D'ailleurs, c'est un peu. C'est très précurseur de Jurassic Park. Ça raconte quasi la même chose.
Oui, c'est. En fait, si tu regardes Westworld, tu as l'impression de regarder Jurassic Park. C'est quasiment la même histoire.
Version western. Enfin, ça se passe dans un futur proche où tu as un immense parc d'attractions qui est comme une ville western.
Okay.
Dans laquelle des gens. Enfin,
c'est des robots.
C'est toutes des robots qui sont là pour le plaisir des gens qui payent très cher pour venir passer du temps dans cette ville puis genre vivre
l'expérience
du vieux West.
C'est drôle.
Donc c'est surtout sexe et violence évidemment. Et puis jusqu'au jour où il y a une merde dans le système et puis que
les robots
commencent à attaquer les clients et tout ça. Alors qu'ils sont tout est fait pour que personne ne soit blessé.
Ok.
Comme les dinosaures qui attaquent.
C'est ça. Donc, c'est très précurseur de Jurassic Park. Et voilà. Puis, et d'ailleurs, c'est en lien direct avec ce qu'on... Je pense que The Terminator est en partie inspiré par ça.
Mais c'est ça, mais c'est toujours ce thème de la technologie qui, finalement, se renverse contre les humains.
Ouais. Et puis, tu peux plus rien faire parce que cette espèce de...
C'est ça.
Cette machine qui n'arrête jamais.
C'est la science-fiction qui est... À peu près 90% de la science-fiction, à part Star Trek, l'opposé Star Trek.
Mais c'est très années 70, années 80.
Non, mais c'est très cyberpunk, là.
Ouais.
Ben donc là, en fait, la série Westworld, donc c'est sur HBO, et il y a
le remake.
Okay, mais c'est plus qu'un remake.
Ça va beaucoup plus loin, parce que le film est finalement très simple, parce que c'est ça, c'est genre, t'as un glitch dans la machine qui fait que... Tout dégringole et puis le robot tue tout le monde et puis t'as un des personnages principaux qui se fait poursuivre pendant une plus grande partie du film.
Oh oui, c'est comme Terminator.
Par le Gunslinger, c'est très comme Terminator.
Okay. Ouais.
Donc le lien est là aussi.
C'est absolument à voir.
Et alors dans la série, par contre, alors ça va... Il y a un petit... comment dire? Il y a un petit côté Lost. Et c'est bien, on entend des crunch derrière partout. C'est pas grave.
Il y a tellement bon le popcorn,
des bons petits popcorn.
Ok, j'arrête d'en manger.
Mais c'est juste pour la petite histoire, c'est Jonathan Nolan, donc le frère de Christopher Nolan, et sa femme Lisa Joy qui ont créé ça et qui ont écrit. Jonathan Nolan a réalisé le premier épisode de la série. Et alors ça explore, c'est évidemment ça va beaucoup plus loin que le film, ça explore tout un aspect des androïdes en fait qu'on n'avait absolument pas exploré. C'est eux-mêmes se mettent à questionner leur humanité entre guillemets, tu sais, on parle de mémoire, de conscience, enfin c'est super intéressant là où ça va. Enfin moi en tout cas, j'aime beaucoup 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 beaucoup. Et c'est très intéressant. Et donc, on a brièvement parlé ce matin avec Marie-Louise. On se dit qu'on va peut-être faire
un épisode. Non, pas peut-être. On va le faire parce que c'est dans la série. On a commencé par Westworld, cette série-là. Ensuite, on est parti avec Ex Machina. Ensuite, on a fait Terminator. Puis on en a fait un autre aussi qui était style robot.
Oui.
AI.
Non, c'était pas AI. Je vais dire ça tout de suite. Attends, ça va me revenir. Mais en tout cas, je pense que ça vaut la peine. On va pas le faire épisode par épisode. On va peut-être prendre un bloc d'épisode puis faire un recap et parler un petit peu des thèmes abordés et tout ça parce que c'est vraiment intéressant. Oh, Blade Runner,
c'est ça. Juste Blade Runner. Mais c'est parce que souvent dans 24 heures, on explore un peu des thématiques. Là. On fait ça des fois. Des fois, mm-hmm. c'est juste un épisode que le film n'a pas rapport, mais là, on s'est rendu compte que c'est presque un hasard. On n'avait pas pensé faire une thématique Android. Ouais.
Puis en fait, on est parti dans le truc Android.
On est parti dans le truc Android. On était dans les voyages dans le temps avant, mais on n'avait pas fait Terminator.
On y retourne, c'est ça.
Ouais. Ben oui, mais c'est l'emphase est plus sur la relation de l'Android avec l'être humain dans Terminator que dans l'histoire du voyage dans le temps. C'est moins le thème. Comme dans Back to the Future. Peut-être dans les autres, mais pas dans celui-là en tout cas. Peut-être dans Back to the Future, c'est vraiment le thème, l'impact sur le futur. Mais Terminator, c'est un peu la prémisse, mais c'est pas les enjeux. Là. L'histoire n'est pas calquée autour du voyage dans le temps.
En tout cas, je pense que le problème dans les films de voyage dans le temps, c'est que dès que tu commences à réfléchir, ça fait plus de sens. Je veux dire, toutes les
Primer.
Ouais, mais encore là, je suis sûr qu'on pourrait trouver des incohérences. Mais c'est vrai, t'as raison de dire que, en tout cas, dans ma perspective à moi, mais on a l'air de se rejoindre. C'est ce qui est intéressant dans Terminator 1, c'est pas tant le voyage dans le temps, on s'en fout un peu du voyage dans le temps. Ce qui est intéressant, c'est vraiment genre comme le monde qui est dépeint, la façon qu'il est dépeint aussi, puis le Terminator en soi. C'est la première fois qu'on le voit, quand il apparaît. On n'a pas une connaissance de ce genre de monstre-là. Fait que là, c'est un nouveau personnage. Puis, il représente vraiment un espèce de monstre ultime. Là. Puis, parce qu'il est tout à la fois, en fait, en quelque
sorte. Mais avant qu'on rentre dans le sujet, parce que j'ai tellement envie de rebondir sur ce que tu dis.
Non, mais écoute, pourquoi pas.
Non, mais il faut qu'on fasse...
Ouais, en général, on fait un petit résumé pour introduire le
truc.
Attends, parce que je n'ai pas préparé de résumé.
Ah oui, mais moi, j'ai dit, c'est pas compliqué. Méchant robot vient du futur pour tuer la maman du gars qui vole... Qui va l'exterminer.
Sauver le monde d'une catastrophe nucléaire massive.
Elle a pas déjà eu la catastrophe nucléaire
massive? Elle a déjà eu lieu.
Mais John Connor est le chef de la résistance.
Exactement.
Donc le fils de la personne qui est la cible et la mère, qui est donc la mère de John Connor.
La mère du résistant.
C'est ça. Donc c'est comme un avortement avant. C'est comme ça le but du Terminator.
Exactement.
De avorter John Connor.
D'avorter John Connor en tuant sa mère.
C'est ça.
Ouais, voilà, ouais. C'est ça.
Oh, puis il y a une histoire d'amour à côté de ça, d'un gars qui vient protéger la fille, comme d'habitude, parce qu'elle peut pas se défendre
même blanc. Oui, parce que là, elle a besoin de sauveur,
mais je voulais pas mettre l'emphase là-dessus.
Hein? Voilà.
Mais ça, il y a un élément intéressant dans l'histoire de l'amour, effectivement, elle peut être chill.
Non, je plaisante parce que.
Mais il y a quelque chose d'intéressant.
Oui, et puis la scène de sexe est très belle là-dedans.
C'est vrai,
très belle scène de sexe. Ouais, vraiment, je la regardais hier, j'étais comme, waouh, on voit plus des scènes de sexe comme ça. Pour commencer, la fille a l'air d'une vraie fille.
James Cameron se les pognait. En fait, est devenu
marié
femme après le tournage.
Un peu après,
mais elle a pas l'air. Refaite, tu sais, en tout cas.
Ah ouais, non.
Mais cette histoire d'amour intemporel entre un voyageur du futur et. Dans le fond, c'est un amour interdit, en quelque sorte. C'est un amour qui.
Ou un amour impossible, plus qu'interdit.
Impossible, plus qu'interdit. Ouais. Ben, c'est vraiment une thématique que. Ça fait vraiment penser à la jetée.
À la jetée de Chris Marker.
Il y a un lien qu'on peut faire avec ça.
Ah, c'est vrai.
Évidemment, dans la reprise,
L'Armée
des Toits Manqués.
L'Armée des Toits Manqués.
Il y a comme une.
Mais il y a un film que c'est
que ça. Un amour linéaire.
Non, mais il y a un film romantique, une comédie romantique avec Christopher Reeve que j'ai oublié.
C'est avec Christopher Reeve. Oui, c'était Superman très bien.
Non, mais c'est un film. En fait, c'est drôle parce que ce film-là est intéressant parce que ça décrit exactement le phénomène que tu dis.
C'est Somewhere in Time, non?
Ouais, c'est Somewhere in Time. Le public cible, c'est la femme, puis c'est la comédie romantique par excellence, mais avec, tu sais, comment dans les comédies romantiques.
Ouais.
Pas les comédies romantiques, mais les mélodrames, puis les trucs romantiques. Le truc le plus important, c'est l'amour impossible.
Ouais.
C'est le truc le plus important.
Ouais, c'est clair.
Puis c'est vraiment ça, cette histoire-là. Ben, donc, il y a cet élément-là dans Terminator. Mais Pierre-Luc, tu vas trouver, parce que
c'est
d'habitude,
ça, Somewhere in Time, Christopher Reeve, Jane Seymour, 1980.
Je ramène la formule dans notre podcast à l'ordre. On est supposé dire quand est-ce qu'on a vu le film pour la première fois avant d'en parler.
Ouais, ben, honneur à Pierre-Luc.
Okay.
Alors, dis-nous comment tu as vu le film, puis comment tu l'as reçu la première fois.
Ouais. Ben, en fait, c'est un film de 84, donc l'année que je suis né. Donc, moi, la première fois que je l'ai vu, j'avais peut-être, 5, 6 ans, mais je l'ai entreaperçu en quelque sorte. J'avais pas le droit de le voir, on m'avait dit.
Ouais, j'allais me dire, attends, c'est
bien. On m'avait dit, non, ne le regarde pas, dis pas ça à la télé ou je sais pas trop, mais en tout cas, il y avait la scène dans le tunnel où est-ce que le Terminator poursuit le protagoniste en moto. Bon, ça avait vraiment marqué mon esprit, puis évidemment, genre comme la figure du Terminator avec la peau qui se déchire, puis l'œil rouge, tout ça. Et l'affiche du film, avec genre les rayons rouges projetés en arrière du Terminator avec ses lunettes de soleil et son côte de cuir. Tout ça m'avait beaucoup marqué étant jeune, c'est resté dans ma tête, comme le fait la culture populaire, la culture de masse. Ces images-là restent imbriquées dans ta mémoire pendant longtemps. Donc j'ai redécouvert le film par la suite, là, à l'adolescence, j'imagine. Je m'en souviens plus exactement quand la première fois. Puis je ne l'ai pas apprécié tant que ça parce que, entre-temps, Terminator 2 avait fait son effet. Donc moi, parce que j'ai comme une relation, c'est pour ça que j'ai commencé par dire que le film est de 84 comme moi, parce que j'ai une relation, c'est-à-dire j'ai une relation générationnelle en quelque sorte avec les Terminators, avec les deux premiers en tout cas. Alors finalement, avec le recul, je préfère le premier que le deuxième, même si le deuxième, je l'ai absorbé quand j'étais un ado, comme tant d'ados de mon âge ou de mon époque, c'est le premier gros blockbuster, et puis C'est un film incroyable sur le plan, genre comme des effets spéciaux, puis tout ça.
Ouais.
Mais je l'ai vu, j'étais pas, en tout cas, je l'ai vu en 95, ou je sais pas trop, 94.
C'est sorti quand, Terminator 91
ou 92.
Ouais, un truc comme ça, ouais, je peux checker ça rapidement. Ouais.
C'est le film des années 90, quant à moi, qui a vraiment marqué un nouveau pas dans l'industrie à Hollywood au niveau des effets spéciaux, puis des blockbusters.
Ah, c'est clair. 91,
c'est ça. Moi, quand j'ai redécouvert Terminator 1 avec mes yeux d'ado ou de jeune adulte, je me souviens plus trop, j'ai comme réalisé finalement que ce film-là, au niveau de la profondeur de la thématique puis de l'esthétique aussi, était plus intéressant que Terminator 2. Puis si je pourrais terminer là-dessus, c'est de dire que finalement, ce qui les sépare, c'est, je crois, à peu près 110 millions de dollars. Terminator 1 était tourné avec 6 millions de dollars. Puis c'était un très bel exemple d'un film semi-indépendant d'un succès vraiment net.
C'est l'exemple quand même aussi du talent de James Cameron.
Oui, aussi. Il y a plein de.
C'est indéniable parce que tu passes à un autre film qui serait. Le film qui a été fait à peu près à la même époque, c'est en 85, là, le film de robot méchant.
Le film de robot méchant en 85.
Il y a Iggy Pop qui joue un petit rôle dans ce film-là.
Oh my God.
Attends.
Un film de série.
Je ne peux pas croire que j'ai oublié ce film-là. Attends. C'était un de mes amis, c'était son film préféré. Puis
c'est pas, il n'y a pas David Bowie là-dedans ou Mick Jagger?
Non. Non, c'est un petit film de série B, puis c'est un peu la même histoire. Ben, c'est peut-être un copycat de Terminator, mais tant que je pense, là.
1985, tu dis?
Ouais, c'est vraiment un petit film culte. Le gars, il a juste fait ce film-là. Bon, Nick, quand est-ce que tu as vu Terminator? Puis le temps que tu fasses ça, moi, je vais faire une petite recherche, puis je vais vous revenir tout de suite avec ça. Parle-nous de ta expérience de Terminator 1.
Terminator en 84, je ne sais plus quel âge j'avais en 84,
Tu étais plus vieux que Pierre-Luc?
Oui, je pense d'avoir comme...
Tu étais même plus vieux que moi?
Je devais avoir 14 ans, un truc comme ça, 14, 16 ans, un truc comme ça.
Bref. T'es dans quelle année? Tu fais 84?
68. Moi?
84 moins 68.
Je n'ai pas envie de faire des maths maintenant.
Ça fait 14 ans.
Mais 14 ans, c'est ça. Donc,
16 ans.
7, non, oui, 16 ans.
Ouais, 16 ans.
Ouais, 16 ans. Donc, je l'ai vu en salle, mais je me rappelle tout le hype qu'il y avait, parce qu'à l'époque, donc j'habitais à Genève en Suisse, mais en France, il y avait un festival de films fantastiques qui était comme la référence, qui était le festival d'Avoria. Et ce qui n'existe plus maintenant, ça a été... Maintenant, c'est le festival de Gérard May, je pense, qui l'a remplacé depuis pas mal d'années. Mais à cette époque-là, c'était comme... à chaque année, le festival de Voyage, on était tous à l'affût de tout le buzz du festival, de qu'est-ce qui vient, qu'est-ce qui arrive. On voyait des photos dans les magazines spécialisés, tout ça. Puis je pense qu'il y avait aussi le magazine Starfix à l'époque, que moi, j'adorais. Qui n'existait plus malheureusement et qui assouvissait tous mes besoins en matière de fantastique et de science-fiction et tout ça. Puis et c'est ça. Puis donc le hype était très fort là pour ce film-là. Tu sais, tout le monde était là, oui, petit film mais qui fait, tu sais, qui est hallucinant avec une histoire géniale, super originale et tout. Et puis donc je l'ai vu au cinéma. Puis je pense que dès le départ, je pense que ça m'a plu. De ce que je me rappelle, en tout cas, je l'ai beaucoup aimé. Puis voilà, je l'ai revu suffisamment de fois par la suite pour quasiment le connaître par cœur et je pense qu'il reste quand même. Même si quand je le revois, je l'ai revu hier là. Et c'est sûr que ça prend un peu un coup de vieux, la musique est terrible. Il y a des trucs comme ça.
Sauf que cette musique-là, avec Stranger Things par exemple, c'est
vrai.
C'est bon, vrai. Tu vois, le synthétiseur, tout le monde veut reproduire ce son-là maintenant.
Ouais, mais le thème de Terminator est devenu, un classique.
Ouais.
C'est, tu peux pas le. C'est le bon truc qui est resté de ce film-là. Le reste de la musique est difficile à écouter, je dirais. C'est le délire synthé.
Ouais.
C'est
très minimaliste.
C'est très minimaliste. Puis ça vieillit pas très bien, je trouve. Mais à part ça, le reste, franchement, ça tient la route. Moi, je me rappelle à l'époque avoir été super impressionné par les scènes futuristes,
ouais.
Avec ce genre très spécifique de maquette des films de Cameron. Ouais. Il y avait la même chose dans Aliens. Il y a un look à ses effets spéciaux, tu sais, à ce qui venait la compagnie qui est devenue Digital Domain, je pense, après.
Je pense que c'est ça.
Et il y a un look très spécifique à ce genre d'effets spéciaux. Je me rappelle avoir été complètement halluciné parce que ça n'avait rien à voir avec du Star Wars ou des trucs comme ça. C'était pas d'ILM, là, c'était autre chose. T'sais. Puis c'était cool, ça avait l'air vrai, c'était des maquettes, c'est là. Puis il travaillait avec des rétroprojections, des projections arrière plutôt. Puis Enfin, ça avait vraiment un look particulier. Puis j'avais, je me rappelle, avait été charmé par ça. Avoir été charmé par ça. Puis, bah, c'est ça. Là. Puis après, ben, bien sûr, fan du deuxième, que j'ai pas revu depuis très longtemps d'ailleurs. Quand on va le faire, là, ça va me faire du bien de le revoir. Hmm. Mais donc, voilà, vas-y.
Puis moi. C'est mon tour. Moi, comme toi, j'ai vu Terminator 2 en premier, je crois, où j'étais plus dans la vague Terminator 2. Tout en connaissant. Terminator, c'est le genre de film que tout le monde avait vu. Mais moi, dans les années 80, j'étais peut-être plus ce genre de fille à triper sur des films d'art. Je me tapais toutes les Bergman, les Fellini, les cinémas indépendants. J'allais dans la cinémathèque, je regardais des films avec ma mère, j'avais vu Denis Arcand. J'étais dans une espèce d'obsession d'une espèce de cinéma de répertoire. J'avais même pas aimé Blade Runner, mais ça, je l'ai déjà dit, imagine. Ouais. À 14 ans. Puis, j'étais comme dans une espèce de bulle d'un certain cinéma avec une sorte de... Ben, on s'entend, là, j'adorais Alien, puis certains films. Là. Il y a des films américains, des gros films à gros budget que j'avais. J'avais aimé Indiana Jones et compagnie, mais j'étais plus dans cette espèce d'aura-là. Donc, c'était pas une priorité pour moi de voir tous les blockbusters puis les films qui sortaient. Donc, j'avais complètement loupé Terminator... qui est sorti quand j'avais quand même 11 ans, donc j'étais peut-être un peu petite aussi, puis j'étais un peu impressionnable, là, tu sais. Ouais. J'ai toujours pas vu les Predator, par exemple, tu sais, tu vois, genre, c'est à l'époque qui était aussi très hip, ah, ben, et très à la mode, donc tu sais, ça avait comme passé sous mon radar, puis à un moment donné, ben c'est ça, j'ai vu Terminator 2, puis ça, j'avais bien aimé, j'avais beaucoup aimé, puis ça m'avait donné le goût de voir le 1 pour mieux apprécier le 2. Et pour moi, c'est pas un film qui m'a fondamentalement marqué, mais je reconnais que c'est un film important dans la science-fiction, puis certainement un film important dans l'histoire de James Cameron, dans la cinématographie de James Cameron, qui est pas un auteur que moi j'aime, mais je lui trouve quelque chose de fascinant de voir à quel point il arrive à faire des films qui sont extrêmement populaires, et des films d'une qualité, donc il va plaire, mais avec toujours... Il y a toujours quelque chose que j'aime dans ces films. Il y a toujours quelque chose que je trouve... Ah ouais, il a fait vraiment un effort. Contrairement à Michael Bay, qui, lui, a trouvé une formule qui fonctionnait et qui est paresseux. On ne pourra jamais dire James Cameron qui est paresseux comme Avatar. J'ai pas aimé l'histoire, mais j'ai aimé la technique. J'ai trouvé que c'est un des seuls films de 3D que j'ai aimé. Je suis quelqu'un qui déteste la 3D, mais dis-moi Avatar...
Ouais.
Ça, j'aimais ça, Avatar.
On l'avait vu ensemble,
non? Je l'ai vu plusieurs fois, quand même, Avatar. Mais bref, tout ça pour dire que pour moi, Terminator, vu que j'ai comme un respect puis une fascination pour la carrière de James Cameron, puis vu que je trouve que c'est un film important dans la science-fiction, c'est un film qui, en le regardant hier, ben oui, il est très, très bien fait. Il y a des très belles choses dans ce film-là et tout. C'est ça. Donc, je l'ai vu... Ah oui, mais ça, je me disais comme la première fois que je l'ai vu, donc je l'aurais vu dans les années 90, j'imagine, probablement. À un moment donné, je m'étais mis à louer plein de films de science-fiction. Puis je pense que c'était dans cette époque-là, je louais comme juste des films de science-fiction avec des amis. C'était genre, on se voyait pour regarder de la science-fiction. Et puis d'ailleurs, j'ai retrouvé... C'est Hardware, dont je voulais parler, qui est sorti en 90.
Ah, il y a Iggy Pop là-dedans?
Oui, il y a Iggy Pop là-dedans.
Okay.
C'est lui qui
Mais tu m'as dit 85, c'est pour ça que j'ai
je me suis mélangée.
Je cherchais dans ces années-là.
J'étais trop loin dans ma tête, mais 90. Ben 90, c'était quand j'étais au cégep, puis c'était un truc de cégep, justement. Donc, puis c'est très mauvais. Hardware, c'est hyper mauvais. Tu le réécoutes, puis t'es comme genre, oh mon Dieu, j'ai aimé ça. Mais c'était comme du cyberpunk, tu sais.
Ouais.
Puis c'était le type qui parlait dans le film de Jodorowsky, puis j'étais comme, pourquoi lui? Il a juste fait un film mauvais, puis il interview le gars pour parler de...
C'était bizarre,
ouais. Anyway, donc bref, voilà.
C'est marrant, hein, c'était vachement mainstream, finalement, pour un film de science-fiction. C'était très... Peut-être parce que c'est plus un film d'action qu'un film de science-fiction. T'as l'aspect science-fiction, parce que robot, parce que voyage dans le temps, mais ça reste quand même un gros... C'était un petit film. Mais un film d'action.
Oui, c'est un film d'action.
Qui fait que ça a plu au plus grand.
Mais je sais pas s'il a été... Parce que, bon, James Cameron, quand il l'a écrit... C'est drôle d'ailleurs, cette anecdote-là, c'est apparemment il était en Italie, dans une période de sa vie où il avait connu son premier... Il avait réalisé son premier film, qui était un échec total. Et puis, il était en Italie, puis là, il a fait un rêve où il avait cette vision d'un robot avec un œil rouge. Puis, en tout cas, il a... rêvé à Terminator.
Il brûlait dans des flammes.
Il s'est rêvé au milieu de la nuit, il a écrit le scénario de Terminator. Tu sais.
Ouais, à chaque fois, il y a des histoires comme ça où ça a pris genre une heure ou je sais pas quoi.
C'est exactement un gros mythe là, pour dire à quel point que, que l'histoire d'être donc bien fantastique puis que c'était un succès assuré ou un truc comme ça. Mais bref, finalement, ça lui prend 2 ans pour le réaliser, mais... Il n'a pas eu, à cause justement de son premier échec, il n'a pas eu droit à beaucoup de financement. C'est ça la raison qui fait en sorte que le premier Terminator a été financé à 6 millions de dollars et pas à 30, 40, 50 millions de dollars comme d'autres productions, ouais, comme il aurait voulu. Parallèlement à ça, en fait, là, parallèlement à la réalisation de Terminator 1, il écrit le scénario de Rambo 2.
Oui, c'est juste.
C'est lui qui a écrit Rambo 2.
C'est lui qui a écrit Rambo 2.
Je savais pas ça.
Qui est quand même.
Il payait des factures avec en écrivant Rambo 2. Ouais.
Ouais. Qui est quand même, je veux dire, nettement moins intéressant, profond que Rambo 1. Là. Rambo 2, c'est vraiment du blockbuster.
C'est du gros film d'action.
Niaiseux.
Un peu vide. Ouais.
Je pense pas que Cameron est nécessairement profond en général. En quoi Terminator serait plus profond parce que tu as l'air d'y trouver une profondeur.
Oui,
je suis très curieuse.
Ouais,
allons-y au cœur de ton analyse.
Que j'y viens parce que. En fait, moi, je vois vraiment un lien entre Terminator 1, Blade Runner. Entre autres parce qu'ils proviennent de la même époque, c'est-à-dire Blade Runner, c'est 82, Terminator, c'est 84. Mm-hmm. Ils ont une certaine esthétique commune, c'est-à-dire montrer...
Très cyberpunk,
noir, finalement, quasiment avec un genre de...
No future,
tout ça. Puis, ce qui est vraiment un détail qui est super intéressant, c'est les deux films s'ouvrent de la même façon, avec la même phrase. C'est Los Angeles 2029 AD.
Ah oui?
La même date, c'est pareil.
C'est vrai?
Non, c'est 2019, Blade Runner. Mais on n'est pas loin.
Attends, t'es sûr que c'est 2019 ou 2029? Non, c'est 2000, en tout cas.
Ouais, Terminator, c'est 2029.
À moins que c'est moi qui me trompe, peut-être que c'est 2019 Terminator. Mais j'ai lu que c'était les mêmes dates. J'ai pas vérifié.
En tout cas, les deux, c'est Los Angeles.
Les deux, c'est Los Angeles.
2000 quelque chose 9 AD.
Et il y a cette même impression, évidemment, que la technologie s'est retournée contre les humains. Dans un cas, les Replicants qui sont rebellés. Puis dans l'autre, les termes, Cyberdyne, puis Skynet. Puis ça, si on le contextualise dans son époque, en fait, 84-82, autant Blade Runner que Terminator, puis la science-fiction de cette époque-là, post-Star Wars, mettons, là, post-années 70, post-années 60, ce qu'on appelait la révolution conservatrice de Reagan.
Ouais.
Reagan est au pouvoir, puis Reagan développe justement le bouclier antimissile qui s'appelle justement qu'on a appelé le bouclier antimissile Star Wars. Le programme Star Wars. Puis en même temps que il y a cette idée là qui est quand même à l'époque suscitait beaucoup d'intérêt ou de critiques.
C'était omniprésent cette peur là de la guerre nucléaire.
Exactement. Puis Reagan qui identifie l'URSS comme étant le Evil Empire, l'empire du mal. Puis là tu sais on a les premiers thèmes justement c'est la droite conservatrice républicaine qui prend le contrôle du parti républicain puis qui instaure vraiment un agenda ultra-conservateur religieux contre le communisme stalinien, etc. Puis, il y a aussi, parallèlement à ça, la percée de IBM, puis des ordinateurs à la maison.
C'est vrai.
Mm-hmm. Fait que c'est comme...
Ben, Macintosh aussi en 84. IBM était considéré comme le géant, Macintosh était celui qui allait comme,
c'était le petit newcomer.
Ça a pris du temps avant que Macintosh devienne Apple.
Comme Apple aujourd'hui est comparé à IBM, mais à l'époque, c'était le petit renégat qui allait être révolutionnaire.
C'était le petit underdog.
Ouais.
Donc, il y a comme une espèce de vent de conservatisme d'un côté. Puis finalement, ce conservatisme-là, c'est quoi? C'est un genre de rejet des années 60, des années 70.
Effectivement.
C'est vraiment un retour du...
Effectivement, un retour d'une espèce d'idéal années 50.
C'est la fin de l'utopie. Ouais. C'est la fin de l'utopie.
C'est vrai.
Fait que là, parallèlement à ça, il y a des...
Ou le retour à une utopie comme telle, parce que c'est la fin de l'utopie idéal hippie, baba cool, qu'on va prendre du LSD puis qu'on va découvrir le monde et tout. Puis là, c'est la guerre à la drogue, c'est les hippies, c'était les méchants, c'était les Manson qui allait tuer du monde. Puis finalement, c'était le retour aux grandes valeurs catholiques des années 50, la femme à la maison qui s'occupe bien de son mari.
Puis justement...
Critique féministe, etc.
Justement, vraiment, dans Terminator, on est en présence dans un monde vraiment ultra-individualiste. Où est-ce que, par exemple, il y a la fameuse scène de la discothèque, où est-ce que le Terminator arrive, puis Kyle Reese arrive, puis là, ils se braquent les deux sur Sarah Connor pour la tuer slash la sauver.
Mm-hmm.
Bon, ben, cette scène-là, elle représente vraiment bien l'esthétique du film et puis le propos de James Cameron. Pourquoi? Parce que on arrive dans la place, l'endroit en tant que tel est vraiment comme représentatif des années 80. T'sais. C'est-à-dire, c'est des jeunes qui sont tous habillés à la mode des années 80. Oh, musique, c'est la musique des années 80. Puis, si tu regardes bien, ils dansent toutes séparément, isolément. Ils ne sont pas en train de danser ensemble. Ils dansent isolément. Ils sont vraiment... ce qui se dégage de cette scène-là, c'est vraiment, du point de vue des personnages qui sont impliqués, c'est vraiment une espèce d'une quête de plaisir individuel.
Okay.
Les gens sont là pour consommer, les gens sont là pour danser, pour avoir du fun, pour s'amuser. Le Terminator arrive, le Terminator est l'antithèse de ça. Lui, il marche dans la foule, tu le vois, là, il marche dans la foule pendant que le monde danse et il est absolument sans émotion, sans déshumanisé, mais là il y a une contradiction, c'est qu'il est déshumanisé mais il a une apparence humaine. Là, déjà il y a quelque chose qui est là, puis ça c'est la question de la technologie qui en
mais
qui
continue en avec toi.
Puis là, ben, c'est ça en fait, c'est que il y a aussi il faudrait en fait analyser le montage de la scène, comment qu'il est fait, parce que la musique des années 80, la musique, je ne sais pas quelle musique c'est à ce moment-là, mais peu importe, c'est une musique électro-disco, en tout cas typique des années 80.
Un peu la New Order,
un truc comme ça. Ouais.
Là, la musique, tranquillement, fond pour laisser place à une musique vraiment angoissante, à mesure que les images révèlent que le Terminator se rapproche de Sarah Connor.
Qui va la trouver.
Puis tout ce montage-là est intéressant pour montrer que finalement, c'est une époque qui se fait attaquer par le futur qui s'en vient, tu sais, le futur qui est un futur sombre, qui est un futur où est-ce que la technologie va...
Puis il tire tout le monde, c'est une tuerie.
Puis il tire tout le monde, tout le monde se sauve, réagit vraiment.
Il n'est pas obligé de tuer les gens, il pourrait juste genre...
Non,
mais je crois que c'est vraiment parce que c'est... En voulant tirer sur elle, il abat du monde qui est dans son chemin parce que
il dévaste ce lieu
complètement.
T'es un robot, t'es pragmatique, t'es logique. La meilleure façon de tuer une personne, c'est pas de provoquer une panique dans la foule. Il y avait vraiment quelque chose d'impressionniste dans le choix de Cameron parce qu'il aurait très bien pu avoir le robot discret. Elle le connaît pas, elle l'a jamais vu.
Non, ça, c'est pas un robot qui se soucie de la ruse ou c'est pas ce genre de robot-là. C'est un robot qui arrive et qui dit je suis plus fort que vous tous, mettons. Peux faire ce que je veux, je vais vous dominer.
Ouais.
Et ça, c'est le futur.
Ouais.
C'est l'image du futur. Donc, toute cette scène-là, ça montre que l'espèce de pseudo-paradis où est-ce que les jeunes des années 80 vivent dans un genre de plaisir effréné est absolument fragile.
Mm-hmm.
Et Cameron, ce qu'il dit, c'est la technologie. Dans le fond, c'est une critique de la technologie. C'est une vision pessimiste de la technologie. Il dit, voyez, l'avenir s'en vient.
Ouais, mais
l'avenir s'en vient, il va vous détruire.
Mais c'est paradoxal parce que Cameron est un grand amant de la technologie, parce qu'il a toujours amené les nouvelles technologies, il a travaillé dans la technologie, dans son art.
Et pourtant,
en fait, un des films les plus pessimistes sur la technologie. Je ne sais pas jusqu'à quel point il était... Ton propos est vrai, mais je ne crois pas que Cameron en était nécessairement conscient. Je pense qu'il était plus un vecteur d'une pensée de l'époque. Qui était plus dans lui était plus à la mode dans l'air du temps, puis il s'est laissé influencer par le mouvement cyberpunk qui était dans la littérature de science-fiction déjà
mais
très fort.
Avatar,
depuis
c'est
les années.
Ça aussi. Avatar, c'est une critique de la technologie.
Oui, t'as raison.
Ah, clairement.
Aliens, le 2, c'est la même affaire, c'est la même chose, avec le retour du cyborg qui est méchant finalement, qui était.
Non, il était gentil dans le 2.
Non, mais en fait, ça reste une critique de la technologie parce que c'est des militaires qui vont coloniser une planète. Puis on a encore de cette thématique.
Mais c'est, non, c'est plus une critique. C'est plus une critique du capitalisme. C'est plus une critique du compagnie.
En fait, les aliens sont-ils vraiment méchants? C'est une question à se poser.
Oui, non, non, mais dans Alien, la personne qui est méchante, c'est la compagnie.
Oui, c'est ça.
C'est la compagnie.
C'est exactement comme dans Avatar.
Mais ça, c'est pas la technologie nécessairement. C'est la compagnie. Dans Avatar, c'est la même chose. C'est la compagnie.
Les deux sont liés, à mon avis. C'est-à-dire le capitalisme technologique industriel. C'est toujours cette même. Chez James Cameron, c'est ça. C'est le.
Mais dans Terminator, c'est la technologie pure. Là, c'est la technologie.
Cyberdyne, qui est la compagnie qui fait Skynet, est une compagnie high-tech qui est dans l'armement. Puis qui, donc, il y a des liens.
Il y a toujours la fameuse méchante compagnie qui vient de Neuromancer, qui était le livre qui a lancé le cyberpunk, je pense, dans les années. En 1980, si je ne me trompe pas. Tu as-tu lu Neuromancer? Je le conseille fortement.
Cool.
Ouais, c'est vraiment. mais c'est vraiment l'apothéose de la méchante compagnie.
Ouais, mais c'est ça, c'est une thématique des années 80. Et puis, moi, je pense, en fait, où je voulais terminer sur ce que j'avais commencé, sur la vision, ce qui était intéressant, finalement, dans la démarche de James Cameron, c'est que dans les années 80, t'as deux types de science-fiction. Mettons, t'as ce qu'on appelle la dystopie radicale puis la dystopie conservatrice. Puis la dystopie conservatrice, c'est simple, c'est un film de science-fiction qui se termine de manière conservatrice, c'est-à-dire que, finalement, les embûches que les protagonistes ont vécues sont résolues par exemple par le retour à une vie normale de famille ou par le retour à un amour hétérosexuel tout à fait classique. Donc c'est le retour justement comme de la norme, la normalité qui vint le méchant. Mm-hmm. Ça c'est la dystopie vraiment conservatrice.
Un exemple, ça serait quoi de film
dans les années 80, c'est parce que c'est ça, les années 80 c'est plus noir en fait. C'est ça que j'ai commencé à dire que c'était qu'il y avait ces deux genres dans les années 80,
mais dystopie classique, mais ça serait
la dystopie conservatrice.
Mettons, je sais pas, le War of the Worlds avec Tom Cruise, mais ça c'est pas les années 80, mais c'est les années 2000.
World
c'est une forme de dystopie conservatrice vraiment traditionnelle. Steven Spielberg là-dedans.
Ouais. Les robots sans.
D'ailleurs, Steven Spielberg. Dans comment ça s'appelle Rencontre d'un troisième type.
Ok, le film.
Steven Spielberg.
Fais très attention à ce que tu dis.
Steven Spielberg a renié. Vous savez que Steven Spielberg a renié la fin. De la fin originale. Parce que dans la fin originale, c'est Richard, le personnage de Richard Dreyfuss qui s'en va avec les aliens. Et donc, il abandonne sa famille. Spielberg renie cette fin-là. Il dit, c'est horrible ce que j'ai fait, j'aurais pas dû faire ça. Donc, c'est là qu'on voit que Spielberg, finalement, il était à un certain moment de sa vie, était plus attaché à une dystopie conservatrice. À, finalement, essayer de toujours terminer ses films avec l'idée comme quoi que la famille est recomposée, que l'ordre est restauré. La dystopie radicale, c'est autre chose.
Ce qu'il connaît dans E.T. aussi, là.
Dans E.T., c'est pareil, exactement, voilà.
Tout est restauré.
La dystopie radicale, c'est complètement autre chose. La dystopie radicale, c'est non, ça se termine pas bien. Ça se termine avec une critique des institutions, de toutes les formes d'institutions, ou une en particulier, peu importe. Dans le cas de Terminator, c'est un peu ça.
Mais Terminator, ça se termine sur une note angoissante aussi.
Exactement.
Parce que ça se termine avec elle sait que le futur, ça va pas bien, là.
C'est ça.
Il y a rien dans Terminator. Ben, dans le 2, c'est autre chose, mais dans le 1, il y a rien de.
Blade Runner, c'est ça aussi. Tu vois, dans les années 80, on a
C'est ambigu, Blade Runner. C'est très ambigu.
Ouais, mais c'est ambiguïté, mais quand même, le futur est sombre.
Ouais.
Le futur est très sombre. Puis il est pas agréable, tu sais, on dépeint un monde qui est froid, qui est inhumain, qui est écrasé justement par comme des grosses compagnies ou par des grosses institutions ou des
où les êtres humains ne sont pas en contrôle de leur évolution vers quelque chose comme dans Star Trek, les êtres humains se sont affranchis de leur bébête, de leurs défauts, ils ont créé une fédération, ils sont des explorateurs amicaux, curieux, qui arrivent dans des zones de conflit, qui, par leur grande sagesse, vont en général réussir à résoudre le conflit. Je te parle des originaux, bien sûr, pas des espèces de navets de films qu'on a eu dernièrement. J'étudie mon opinion sur Star Trek. Là.
As-tu vu le dernier Star Trek?
Le dernier, non, je t'ai pas
Beyond,
vu.
Beyond, le tout dernier.
Non, mais ça doit être un gros film d'action comme les deux autres.
Puis, un autre...
C'est moins pire que le précédent, on pourra en reparler.
Mais parlant de film d'action, continue si tu veux ton idée, mais je vais juste faire une parenthèse sur le film d'action de Terminator.
Oui.
Je suis quelqu'un qui est très, très, très difficile dans les films d'action. La majorité des films d'action que je vois maintenant, en 2000 quelque chose, m'ennuient profondément. Et je me rends compte, en écoutant Terminator, j'étais... Ah! Ça, c'est un bon film d'action. Parce que je ne sais pas pourquoi, tout le long de ce film-là, et même si je connais l'histoire, je suis engagée dans la scène d'action qui se passe. Il n'y a pas un moment qui me dit... Bon, est-ce que là, les voitures ont fini d'exploser puis de tourner dans les bars puis comme de se courir partout? C'est comme le temps est bon, le rythme est bon... Les émotions que les personnages vivent à ce moment-là, ont vécu juste avant, juste après, C'est un magnifique film d'action. Donc, très, très beau classique d'action.
Mais il y a une action, je ne sais pas si c'est dû au budget limité, mais il y a une économie, pas une économie de moyens, mais je veux dire, c'est efficace.
Moi, je pense
que
c'est un talent. Je pense que c'est le talent de
monté,
Cameron.
C'est tourné, monté, tight. Il y a le talent de Cameron derrière,
ouais,
c'est sûr.
Faut pas oublier que faire un film comme ça, ça prend vraiment un réalisateur qui a un talent, mais comme quelqu'un qui joue du violon, Paganini, super vite, tu sais, c'est une capacité de sentir au micromètre que c'est là que tu coupes ta scène,
ouais,
là,
ouais.
Tu sais. Puis il est excellent là-dessus.
Mais
on
ouais,
s'ennuie
ça,
jamais
c'est...
dans un film de Cameron, là.
C'est vrai.
En fait, pour continuer là sur l'idée comme quoi que James Cameron avait un propos sur son époque,
ouais.
Où, tu sais, la première scène qu'on voit du Terminator quand il arrive en 84, c'est il est nu et il s'en va voir des punks.
Oui.
Et
ça,
puis
c'est...
les punks finalement représentent.
Dont fait partie Bill Paxton d'ailleurs.
Oui, effectivement.
C'est Bill Paxton.
Il y a Bill Paxton,
ouais.
Ouais, celui qui a la crête,
ouais.
La crête mauve.
Ah ouais,
c'est Bill Paxton, tout jeune, ouais.
Puis donc les punks représentent vraiment une époque en décomposition. Là. C'est-à-dire c'est les années 70, c'est la fin d'une culture. C'est pas pour rien que c'est des punks en premier qui se font tuer par le Terminator, qui se font agresser et tuer pour l'un d'eux.
Ouais.
Donc, c'est dans le fond, Cameron décide de mettre en scène des punks pour dire que le Terminator arrive en 84, puis que l'époque est pas mal différente, là, tu sais.
Ouais.
C'est fini la contestation, c'est fini l'utopie, tout ça est fini, puis il exécute un punk.
Il élimine les punks
dès le début. Quand il arrive au... En plus, c'est ça, ce qui est super intéressant aussi, c'est qu'il met le blouson noir de peut-être de Bill Paxton, je sais pas trop, mais
ouais.
En tout cas son blouson noir,
ouais, ouais.
Le look du Terminator est un
il
genre de look
peu,
oui c'est ça, puis ça fait penser à le Marlon Brando,
oui,
dans
vrai.
Le film là, j'avais pris
Rebel
un autre
with, Rebel Without a Cause,
non
The Wild One,
ouais.
The Wild One. Puis le personnage de Marlon Brando dans ce film là, c'est un personnage iconique là. Il représente vraiment le rebelle de la société américaine, sur sa moto, intrépide,
ben, y a une moto, d'ailleurs,
contre l'autorité, contre la police, tu sais, il est vraiment le rebelle.
Ouais.
C'est l'image là. Puis,
ouais.
Ça,
et le Terminator se promène en moto.
Exactement.
Ouais, il choisit la
pareil.
Moto.
Donc,
quoi.
Le Terminator représente une certaine forme
de
rébellion contre l'ordre de la société dans laquelle
bon,
il est.
Ouais.
Puis d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il attaque la police constamment. La police, dans ce film-là, a un rôle affreux.
Ah, c'est excellent, d'ailleurs, cette scène-là, où est-ce qu'il rentre dans le commissariat de police et qu'il
tue
tout le monde.
C'est la fameuse, ouais, c'est la scène du film.
Elle a été scandaleuse à l'époque.
Ah ouais.
Ben oui. Ouais, parce que
même aujourd'hui, on voit pas vraiment ce genre de scène.
Non, mais moi, en le réécoutant, j'étais comme, wow, c'est intense. Là, t'as l'impression d'être dans un film.
Donc, pour moi, c'est la figure de
Robocop. Ça me fait penser un peu à Robocop qui était.
Oui, aussi, ouais.
Qui avait cette espèce de.
Robocop, il y a plein de parallèles qu'on pourrait faire.
Ouais,
c'est
Robocop
exactement le même genre aussi, une dystopie
on
radicale.
On en a parlé de Robocop, puis c'est vraiment un film... En le réécoutant, quand j'avais vu à l'époque Robocop, j'avais pas catché la critique sociale parce que j'étais trop jeune, mais en le réécoutant, j'ai fait « Wow, c'est vraiment intense!
Ah, » c'est intense,
c'est quelle époque Robocop, d'ailleurs? C'est-tu après, pas longtemps après Terminator, j'imagine?
Attends, je vais te dire ça
c'est
tout
de suite. C'est pas avant?
J'ai un blanc, mais je vais te dire ça très vite.
Moi, je te dirais 85 ou...
87.
Ah, c'est ça, c'est après. Donc, Robocop a été influencé par Terminator.
Sauf qu'on pourrait voir une critique de la figure du rebelle que Cameron fait.
Parce que c'est
fait,
le méchant.
Parce
que
c'est le
méchant.
Parce qui s'attaque justement à l'autorité.
Et,
mais en même temps, il y a quelque chose de... Il y a une mince...
Et les psychopathes, ce méchant-là, il a aucune... C'est le personnage d'Halloween aussi, là, comment il s'appelle?
Michael Myers,
ouais.
Michael Myers, c'est la même chose. C'est le même canevas, c'est la même histoire d'une certaine façon. Je suis sûre que Terminator est influencé par Halloween parce que tu as le même style d'angoisse, de rapport avec la fille qui est victime, puis le Terminator qui est comme cette espèce de méchant-là qui l'a ciblé.
Qui ne s'arrête jamais.
Qui ne s'arrête jamais et qui n'a pas d'émotion, qui n'a pas de motivation. Qui n'a pas de motivation personnelle. Il y a un code, il fonctionne selon ce code-là. Comme...
Il est programmé, oui.
Il est programmé, mais ce n'est pas de motivation personnelle et donc tu n'as pas d'attachement pour ce personnage-là. Comme... Il n'y a pas d'humanité.
C'est ça qui est la contradiction principale avec le Terminator. C'est que, effectivement, il n'y a pas d'humanité, tu l'as bien décrit, mais en même temps, il renvoie une image humaine. Puis d'ailleurs, c'est ça que dans le film, Kyle Reese, il se tue à dire au policier quand il est arrêté, il dit vous ne comprenez pas, il est fait de chair et de sang, il peut même suer, c'est le dernier modèle, c'est le T-800. Avant, on pouvait les spotter, mais maintenant, on ne peut plus les spotter. Puis il dit à Sarah Connor, j'ai dû attendre qu'il dégaine son gun dans la discothèque pour pouvoir le reconnaître.
C'était lui, ouais.
Donc, Donc, ce qu'il dit à ce moment-là, c'est...
moins perspicace parce qu'il marche
quand même. Il est une machine, mais en même temps, il est tellement humain.
Ouais. Ouais.
Donc, c'est ça qui est intéressant parce que finalement, c'est pour ça que tantôt, je disais que le Terminator représente le monstre parfait. C'est parce qu'en même temps qu'il est le plus inhumain possible,
ouais.
Inarrêtable, éternel quasiment,
ouais.
Sans émotion. Bon, en même temps qu'il est ça, il est aussi un humain
ben,
qui se fond dans la foule.
Il mimique bien l'humain, c'est comme dans les réplicants dans Blade Runner, c'est la même chose.
Un peu comme ça.
Parce qu'il va même imiter la voix de la mère, il est comme... c'est ça, il y a un petit côté...
Puis là, c'est comme s'il renvoie finalement l'être humain à sa propre inhumanité, en quelque sorte. Fait comme un genre de miroir, en quelque sorte. Puis là, c'est intéressant parce que c'est Arnold Schwarzenegger. Puis Arnold, en 84, là, c'est encore
Monsieur Univers.
Hein. Il vient de jouer dans Conan
le Destroyer.
Dans ce film-là, tout ce qu'il fait, c'est montrer ses esthétiques de gros muscles, bodybuildés, tout le kit. Il est connu pour ça. Donc, ouais. Il représente évidemment l'homme blanc viril des années 80 de la société conservatrice de Reagan.
Mais il était pressenti pour jouer le rôle de Reese.
Ouais.
Oui, c'est ça, il l'a refusé, c'est lui qui a voulu jouer le Terminator.
C'est le contraire, c'est Cameron qui l'a convaincu.
J'ai lu tantôt que c'est lui qui l'a même tout.
Moi j'ai lu tantôt dans un autre truc.
Dans le trivia, ils disent
qu'il y avait quand même
il
y avait une hésitation dans ce que j'ai lu, c'est que quand Cameron a rencontré Arnold Schwarzenegger, c'est que Arnold Schwarzenegger avait plein d'opinions sur comment le Terminator devrait jouer. Il n'arrêtait pas de donner son avis.
Ouais.
Et c'est comme ça que Cameron a dit « Hey, tu devrais le faire. » Puis là, Arnold l'a fait. Donc, fondamentalement, ça devait lui tenter parce qu'il y avait, il y avait une opinion beaucoup plus prononcée sur le Terminator que sur Reese. Et puis, en fait, il a hésité parce qu'il se voyait pas dans il venait de faire Conan, qui était comme un héros positif. Donc, il se voyait pas nécessairement faire un vilain. Puis à l'époque, c'était... Ça se faisait pas. Tu passais pas du vilain. Hollywood castait les acteurs, il y avait les vilains puis il y avait les bons. Mm-hmm. Puis si ton rôle c'était d'être un vilain, tu restais un vilain pour tout ce que tu jouais. Puis c'était un bon choix. Donc c'était pas évident pour lui de dire je peux passer au vilain. C'était encore, il est encore attaché un petit peu à ce modèle-là. Ouais. Mais bon.
Alors, mais il fait partie de ces vilains.
Mais c'est son seul rôle de vilain, je pense. Je pense pas qu'il en a fait d'autres.
Hein. Ouais, parce que dès le suivant, il est redevenu gentil. Puis, écoute, je pense que j'ai pas en tête d'autres rôles de vilain qu'il aurait pu faire. Mais c'est un vilain qui est resté célèbre, iconique, tu sais. Je veux dire, tout le monde le cite.
Il incarne vraiment bien quelque chose qu'on retrouvait dans les années 80. C'est pas pour rien qu'il était l'alter ego de Rambo, de Sylvester Stallone.
C'est vrai.
Les deux incarnaient cette virilité masculine.
Exacerbée. Une virilité fantasmée, là, qui n'est pas vraie.
Puis là, dans le cas du Terminator, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est comme je disais, qu'il renvoyait l'être humain à sa propre inhumanité. C'est l'homme blanc viril qui monte ses muscles, qui est par l'entremise de Cameron. On peut l'analyser comme ça, on peut l'analyser comme étant une critique de cet homme blanc viril bodybuildé. Qui n'a pas d'émotion, qui n'utilise pas vraiment sa raison, en tout cas, puis qui est programmé. Ok, il est programmé, puis dans le fond tout ce qu'il fait, c'est il est inarrêtable, il détruit tout. Donc on peut voir une certaine forme
de grande symbolique là sur l'homme blanc viril, le fantasme de l'homme blanc.
Ouais, mais sauf que dans ces années-là, s'il y a bien une chose qui représente les années 80, surtout à Hollywood, c'est ce genre de cinéma-là. C'est les années 80, c'est le bling-bling, c'est le party, c'est...
On n'est plus dans les années 70 où est-ce qu'il y avait beaucoup de nuances, où tout était gris, je veux dire, dans Le Parrain, Apocalypse Now, où est-ce que les personnages sont ni bons ni méchants, ils sont complexes. Dans les années 80, tu reviens à quelque chose de...
Ce qui est revenu aujourd'hui, d'ailleurs. Ce qui revient beaucoup aujourd'hui,
la complexité. Oui, bien sûr, avec Breaking Bad, on en parlait tantôt.
Ben, voilà, ouais.
Dis-moi pas qu'on va encore mettre dans le show notes Breaking Bad, parce que des fois, on fait des petites sorties et tout, puis souvent...
Breaking Bad, ça revient pas mal souvent.
Breaking Bad, ça revient pas mal souvent. Mais Breaking Bad, c'est vraiment le bon exemple des années 2000.
Ah ben là, tu sais, je parlais de Westworld tantôt, là. Quand tu vas, commencer à regarder ça, au niveau de la complexité, tu sais...
Mais on aime bien...
Là, tu vas t'y revivre aussi.
On aime bien comme genre... ces personnages-là qui sont à plusieurs niveaux et tout, qui nous surprennent aujourd'hui. Mais c'est vrai que dans les années 80, il y avait une pureté. Ben, c'était Star Wars qui a amené ça. Star Wars, c'était les bons, les méchants. Ou tu me diras, on retourne au Western des années 50.
Ouais,
là.
Ouais.
Mais c'était cette idée-là du très bon puis du très méchant, puis c'est clair, puis t'as pas besoin de rien expliquer, t'as besoin de rien douter. Bang, on part en action et tout. On l'a à 100% dans
Dans Terminator 1, c'est pas si clair que ça, moi, je trouve.
Que Schwarzenegger, c'est le méchant?
Non, c'est pas juste une façon de le voir si concrètement là. C'est plus parce que ce que Cameron y met en, le Los Angeles que Cameron met en scène, c'est un Los Angeles vraiment dégoûtant. On, tu sais, il filme, c'est quasiment tout le temps la nuit. Il filme les ruelles sombres, dégueulasses. Là. En fait, je suis certain que Los Angeles, en années 80, il n'y avait pas de ruelles aussi dégueulasses que ça. Okay. Tout est vraiment très, 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 très dégueulasse. La police est omniprésente. Par exemple, pourquoi que la police court après Kyle Reese quand elle le croise dans la première fois dans la ruelle? Pour rien. Okay, elle court après. Il n'y a, a même pas de, d'interaction, de communication entre eux. Là. Il court après.
OK, mais
là,
tu me fais penser au comic book, alors. Ou est-ce que les vraies personnes, les policiers sont toujours un peu stupides comparés aux super-héros qui vont transcender? C'est très typique du mythe
dans
américain.
Batman, dans Gotham, c'est ça aussi. C'est,
dans Batman.
C'est la critique que je suis en train de faire, c'est la même critique qu'on pourrait adresser à Batman. C'est finalement, ça revient à dire quoi? Ça revient à dire pourquoi sauver une telle humanité? Puis, dans le fond, c'est un peu ça qu'on voit tout à travers la saga Terminator. C'est oui, mais attends, l'humanité, finalement, elle cause sa propre perte. C'est la technologie qu'elle met au point qui finit par se tourner contre elle. Puis de toute façon, même avant que dans le code Terminator, ce soit le jugement dernier, là, l'explosion nucléaire, tout ça, il y avait déjà les prémices de cette destruction-là, de cette autodestruction-là.
Dans Terminator, tu n'as aucun personnage qui est attachant puis qui te crée une sorte de... T'as pas un fuzzy feeling, là. T'as pas cette espèce de
cute
avec une petite famille sympathique. C'est genre, t'as la. C'est comme dans Halloween, t'as la fille là, qui va coucher avec son chum puis qui vont se faire tuer et tout. Ça, c'est les personnages. T'as le diner où est-ce que les clients sont un petit peu cons. T'as le petit gars qui met la boule de crème glacée dans la. Mais tout dans les détails, en fait. C'est tous les détails. Il n'y a pas de personnage attachant. Ils sont un peu agressants. C'est le quotidien agressant de tout le monde. C'est comme...
Ouais, bah t'as des petites bribes de. Enfin, tu commences à découvrir des personnages avec Sarah Connor puis sa coloc, tu sais, au début, ou genre, tu sais, elles sont copines, c'est cute, machin, on va sortir.
Elle a un chum qui est un petit connard. Les deux, tu sais, ils sont un petit côté.
C'est rien, je reçois des messages de ma blonde.
Oui.
D'ailleurs, la coloc de Sarah Connor, si vous remarquez bien, on la voit constamment avec ses écouteurs.
Ouais.
Oui.
Ça aussi, c'est une
marque. L'individualisme que tu
parles.
Le Walkman.
Party, plaisir individuel.
Même au lit avec son chum, elle a son truc sur les oreilles.
Exactement. Puis elle n'est même pas consciente du meurtre de son chum sur le coup.
Absolument.
Dans le fond, elle a causé sa propre perte en écoutant sa musique constamment, parce que si elle l'avait entendue, probablement qu'elle aurait pu s'enfuir.
Ouais, elle dormait pas, elle aurait pu entendre.
Non, fait que ça, c'est clairement une critique. Pourquoi que tu mets un personnage qui a toujours des écouteurs sur ses oreilles? C'est un choix vraiment éditorial.
Ouais, c'est vrai.
Puis.
Ouais, puis il y a quelque chose de très rare dans ce film-là qui fait du bien, qui n'est pas tout léché et tout, comme tu décris dans les lieux filmés, la façon dont c'est filmé. C'est pas filmé d'une façon esthétique. Les choix qu'il fait des lieux à filmer, c'est jamais glorieux. Il n'y a pas de.
Le bar où est-ce que la fameuse scène que je décrivais tantôt se passe, là, s'appelle le Tech
Noir.
Ouais, ça, c'est,
Il me semble que j'ai vu.
Le motel où est-ce qu'ils font l'amour, le Nikki.
Ah oui, c'est ça.
Il y a quelque chose de glauque, là. Tu sais, ils choisissent pas. OK, ils vont sauver, puis ils vont trouver une belle petite maison, puis c'est là qu'ils vont vivre leur petit truc romantique. Non, dans un motel, il y a quelque chose de plus...
Non, ils ne seraient pas portés là-dedans.
Il y a quelque chose de plus banal pour une fille que de coucher dans un motel avec le futur père de son enfant? Tu sais, t'es loin du mariage, le romantique, là.
Mais le personnage de
Reese?
Je rebondis, en fait, ce que tu disais, là. C'est que Jamie Lee Curtis, dans Halloween...
Ouais.
Elle ressemble un peu finalement à Sarah Connor.
Ouais, elle est pure.
Puis Sarah Connor, dans le film, au début quand on la voit, d'ailleurs je pense que c'est probablement genre la seule scène de jour qu'on voit de Los Angeles, c'est Sarah Connor qui s'en va travailler.
Ouais.
Puis elle est serveuse. Elle est serveuse, puis elle gaffe, tu sais,
elle est pas bonne.
En tout cas,
puis,
je peux pas la blâmer.
Ouais, puis les clients sont cons.
Les clients sont cons surtout.
Ouais.
C'est une job de merde.
Ouais.
Donc, puis en passant, il n'y a rien de plus typique que le job de la serveuse dans un diner à Los Angeles pour représenter un certain
catégorie de personnage. C'est la fille médiane américaine.
Exactement.
Elle n'est pas particulièrement brillante.
C'est ça, puis elle est un peu nunuche au début, tu sais. Elle est un peu justement comme Jamie Lee Curtis dans Halloween au début, tu sais. Ah, elle crie, je ne sais pas ce qui arrive. Mais à un moment donné, Puis là, bon, là, on pourrait faire une critique parce que c'est par l'entremise de l'homme qui arrive du futur, qui lui apprend la vie, tout ça.
Ça reste un très, très, très grand classique de La Demoiselle en détresse, le premier Terminator.
Ouais,
on dira pas ça du 2.
Mais c'est dans le 2, c'est dans le 1, pardon, c'est dans le 1.
Ouais, parce qu'elle a
confiance.
Oui.
À la fin, il y a comme un peu, elle prend les choses en main.
C'est elle qui le tue. C'est elle qui le tue quand elle dit terminate this fucker.
You terminated, un truc comme ça. Mais il y a aussi un moment où, tu sais, quand Reese est blessé à la fin, ouais. Elle est là, c'est get on your feet, soldier!
Oui, c'est ça, exactement. Elle commence à prendre le lead. Là, son personnage change, donc elle est passée de serveuse à guerrière.
Ouais.
Est-ce que dans Halloween, c'est Jamie Lee Curtis qui tue le.
Je pense qu'elle le tue à plusieurs
à
reprises.
Il meurt trois fois, lui.
Mais j'ai pris l'exemple de Jamie Lee Curtis parce que me semble que c'est ça qu'on retient de Halloween, entre autres. Là,
c'est la
relation entre elle et Michael Myers.
Oui, parce que ça continue par
c'est
la
ça,
suite.
Ça continue, puis lui, en fait, c'est sa sœur, c'est ça ou...
C'est sa sœur.
Oui, c'est ça. Puis finalement, elle devient. À un moment donné, elle devient justement. Elle est capable de le. De lui résister, de comprendre, peu importe. Mais elle devient forte, finalement.
Oui, ben moi, je pense que cet élément-là est intéressant parce que le personnage de Sarah Connor est aussi très, très emblématique de l'époque. C'est comme tu parlais de symbole puis de symbole de société. Ben, en 84, cette fille-là, fragile, tu sais, je veux dire, le moment où est-ce que son petit ami la laisse tomber au début ou la traite mal et tout, c'est le classique de la fille qui est comme « Ah, j'aime un gars, il s'occupe pas de moi » et tout. Tu sais, c'est la fille tellement ordinaire et tout. Puis elle a dit « Mais pourquoi moi, je suis pas... » Tu sais, t'aurais un gars qui serait dans la même situation, il se poserait pas la question genre « Ah, je vais être le père du futur sauveur, il faut me protéger. » Il va tout de suite, il se dit « Je suis un héros, il embarque. » Puis elle est comme genre « Non, je peux pas, je suis une simple femme, tu sais.
Ouais. »
Genre, vous ne pouvez pas me faire ça. Puis c'est comme si on lui imposait. Puis c'est comme, en fait, à une époque où est-ce que tu avais vraiment un courant de pensée féministe très fort qui disait aux femmes « Vous allez arrêter d'être des femmes, vous allez arrêter d'être des victimes. » Puis qu'on imposait aux femmes tout d'un coup, genre ben, tu travailles, tu t'occupes de toi, tu te maries plus avec un homme qui va être... Tu passes pas de ton père à ton mari.
Ouais.
Hein? Parce que c'était ça avant. La femme passait de son père à son mari. Elle était sous la protection de son père, éventuellement de ses frères. Et après ça, elle devenait la protection de son mari et c'était son rôle, tu sais.
Ouais.
Et là, la société à l'époque, elle dit « Non, les filles, c'est fini ça.
Ouais.
C'est fini, c'est les femmes disent ça à d'autres femmes. » Puis il y a des gars qui font « Hey, c'est cool. c'est pas désagréable. » Puis elle, à la fin, elle, effectivement, t'as raison, mais c'est intéressant que ça soit à la toute fin du film, qu'elle l'assume puis qu'elle devient... très forte. Puis dans la dernière scène, tu vois qu'elle a le gun, elle est partie, elle s'en va au Mexique, elle devient une renégat, une rebelle.
Ouais.
Elle va accomplir son rôle de mère, mais mère célibataire.
Exactement.
Qui va élever son fils. Elle va donner son nom à son fils. Ça aussi, c'est un truc intéressant.
Ouais, Connor.
Ouais, ça va être Connor, le fils, ça va être Connor.
Mais là, c'est super intéressant ça, parce que dans la même thématique, c'est un des personnages qui me fascine le plus dans les Terminators. Qui revient quasiment dans tout, je pense. C'est le docteur.
Oui,
en tout cas, lui.
Il est excellent.
Lui, il revient tout le temps. Puis là, il est dans le premier, c'est le même acteur.
Drôle.
C'est vraiment super intéressant. Puis là, dans le premier.
C'est le même.
C'est le même acteur dans le premier, dans le deux,
et
dans le dernier, le Genesis, le truc qu'ils ont fait, là, c'est encore lui.
Ah, mais j'ai pas
fait le même rôle, sauf que ce qui est d'ailleurs qui est très drôle, je fais une parenthèse, mais ce qui est très drôle, c'est que dans Genesis, il devient le plus crédule. C'est-à-dire, c'est lui qui croit à tout, là. Il croit à toute l'histoire, lui, il y a pas de doute, il sait que c'est vrai, là, qu'il y a des robots, tout ça. Mais dans le premier, dans le deuxième, lui, en fait, il incarne la raison pure.
Ouais.
Le docteur, la science. Puis dans le premier, c'est lui qui. C'est super intéressant, ça, parce que ça, à mon avis, c'est un des meilleurs coups de James Cameron dans les deux films. C'est. Dans le premier, il y a la scène où est-ce que il est dans le bureau de police, puis là il interview Kyle Reese, puis par la suite il monte les images de son interview de Kyle Reese sur une petite télé au policier puis à Sarah Connor. Puis là, ça en plus du point de vue scénaristique, c'est vraiment génial parce que là ça nous permet d'entendre toute la version de Kyle Reese.
Ah oui,
mais comme elle est entendue par la police, donc c'est une pierre coup double en quelque sorte. Parce qu'on voit la réaction de la police en même temps qu'on entend l'histoire du futur. C'est qu'on n'avait pas entendu.
C'est brillant, c'est vraiment.
Super bien fait.
C'est une très belle façon de présenter l'histoire sans que ça soit plate du tout.
Exactement, c'est super bon. Puis là, en plus, là, c'est ça, il y a la critique du médecin. Puis là, le médecin, évidemment, il dit il est fou. Lunatique, fou. Dans le 1, ce qui se passe, c'est que finalement, le Terminator arrive puis il massacre tout le monde, toutes les polices, mais pas le docteur.
Non.
Le docteur, lui, quitte juste au moment où est-ce que le Terminator. Et donc on le revoit dans le 2. Et quand on le revoit dans le 2, dans le 2, je vais juste un petit peu parler du 2 mais pas beaucoup. Quand on le revoit dans le 2, c'est quand on a quand on apprend que Sarah Connor est rendue dans un asile psychiatrique et qu'elle est enfermée et hystérique entre guillemets. Et puis elle est médicamentée, puis elle est contrôlée, puis elle est surveillée. Puis... Et donc, c'est lui qui la contrôle finalement depuis des années. Puis là, elle a une relation de haine avec ce personnage-là, évidemment.
Mais oui, mais c'est
parce
vrai,
qu'en plus que lui, il devrait être le plus à même de comprendre.
Parce que toutes les policiers ont été tués
par le gouvernement. Parce que tu sais, il était là. Fait que là, il a tout manqué, lui. Donc, c'est comme une critique, évidemment, de la psychiatrie que James Cameron fait. Parce que celui qui est le plus à même de comprendre la vérité, l'esquive, tu sais. Puis c'est ça. Fait que ça, je trouvais ça super intéressant. Puis d'ailleurs, la scène...
Ça aussi, c'est un phénomène vraiment des années 80. Le fameux psychiatre qui vient expliquer tout. Et ce sont des imbéciles. Et t'as tellement... Je pense que ça, c'est un truc... C'est même récent, là. C'est peut-être en 2000 qu'on a commencé à avoir une critique. Fin 90, début 2000, où est-ce que là, ça commence à être... Wow, minute! Tout ce qui est psychanalyse, psychiatrie, psychologue, le pouvoir qu'on donnait aux psychologues. C'était tellement fort dans les années 80, là. Ouais. Puis t'as des choses terribles qui ont été faites qu'aujourd'hui, tu te dis, mais les amis, c'était de la pseudo-science, là, votre affaire, là.
Mais pour moi, soit ça rejoint encore une fois la critique de la grande industrie, critique de la technologie.
C'était brillant c'était très brillant de Cameron de faire d'avoir cette espèce de se moquer de ce personnage-là, parce qu'à l'époque, ça se faisait pas.
Ouais.
Dans les années, début 80, le personnage du psychiatre était toujours le personnage, tu sais, comme à la fin Psycho, par exemple, qui vient expliquer toute l'intrigue.
Oui. Ouais.
C'est celui qui va... c'était la grande époque, le film, Sibyl, avec la fille, avec les personnalités multiples, où est-ce que la psychiatre, c'était la grande sauveuse qu'elle est. C'était un mythe très, très fort. Puis peut-être lui, il arrive, puis c'est un imbécile.
Peut-être plus en Amérique du Nord, parce qu'en Europe... je ne sais plus quoi le titre, mais merde, c'est un film des années fin 50, début 60. C'est un des films qui est reconnu comme étant un classique des films d'horreur. Là. C'est un film français où est-ce que c'est un docteur qui, un chirurgien en fait, qui cherche à remplacer le visage de sa fille.
Un man
de
without
sa fille.
A face? Non, ok, oui.
Non, c'est un film français. Attends.
C'est un film français.
Je sais de quel tu parles,
oui. Oui, en tout cas, c'est un classique.
Vu, mais...
Je l'ai pas, mais.
Très bon film d'ailleurs. Puis, en fait, la thématique dans ce film-là, c'est une thématique qu'on retrouve dans d'autres films par la suite en Europe. Fassbinder a fait un film aussi là-dessus, le mariage de Véronica Voss, si je me trompe pas.
De Maria Brown.
Non, c'est Véronica Voss.
Véronica Voss, okay.
Ça fait partie de la trilogie, cette trilogie-là avec Maria Brown aussi. Là. Mais ce film-là, c'est pareil. Finalement, c'est la critique de l'institutionnalisation puis des médecins. Des médecins, des blouses blanches, tu sais.
Oui, mais
puis
là...
Ça fait écho
moi,
à...
Moi, je te parle de la psychiatrie, c'est pas pareil.
Au nazisme, en fait, à...
Oui, mais le médecin mélange pas médecin puis psychiatrie. C'est deux choses...
Mais c'est une critique de la science. C'est une critique de la raison instrumentale. C'est la critique
moi,
de vraiment comment
mais
la
là,
science...
C'est pas la même chose, je vais vraiment m'assiner, parce que la psychanalyse... C'est pas de la science, OK? Ça rentre dans la catégorie des pseudo-sciences, OK? Puis, pourquoi je te dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de branches de la psychanalyse qui sont complètement détachées, tu sais, Jung et compagnie, c'est pas de la science.
Non, mais attends, un psychiatre est un docteur.
Oui, mais moi, ce que... là, on avait un psychiatre aussi dans
puis,
le truc.
Moi, ce que je veux dire, c'est que je veux pas trop faire la différence entre psychanalyse et docteur. Je comprends ce que tu dis, c'est vrai, il y a des différences à faire fondamentales, mais...
Mais je pense que pour moi, il y a une grosse différence entre
le
médecin.
Ou le médecin, ou en tout cas
le personnage du spécialiste médical.
Ouais, ça, mais c'est l'être rationnel, c'est ça que je veux dire, en fait. C'est l'être rationnel.
Ah oui, ok.
Il apporte la raison.
La raison. Ouais, ouais.
Il est supposé soigner, il est supposé vraiment, il est articulé. C'est toujours, en général, quelqu'un qui est assez froid. Puis assez, tu sais. De Terminator, la fameuse scène dans le 1, on va revenir là-dessus, qui est surprenante, c'est quand il se soigne, qu'il prend le temps devant son miroir dans son espèce de chambre d'hôtel miteuse, où est-ce que tu sais, il se découpe la main, puis là, c'est gore, puis là, c'est intéressant. Puis là, tu regardes cette scène-là, c'est vraiment bizarre parce que il est méthodique, il est chirurgical, un peu justement comme un être rationnel, comme un docteur. Puis il prend le temps de se regarder dans le miroir. Puis il se regarde là pour voir s'il est correct. Il met ses lunettes. Il a été. Tout ça, c'est une attitude totalement humaine, humanisante, puis qui est qui est un peu décalé avec son personnage froid. Fait que, encore une fois, ça rajoute à cette idée qu'il est pas humain, mais humain à la fois. T'sais.
Moi, j'avais c'est pris étrange. Ça. Moi, j'avais pris ça uniquement.
Pour qu'il paraisse.
Comme une mise en avant des effets spéciaux de l'époque. T'sais, c'était ouais, Stan Winston et ses animatroniques et son maquillage et machin.
Je pense qu'il y a ça
donc
aussi.
Il y avait ça aussi. Ça rentrait un peu dans la catégorie de slasher movie, bien que Cameron ouais. lui-même... Alors, je lisais tout à l'heure, pendant que tu parlais, tu sais, du tech noir, tu faisais allusion au tech noir, puis que Cameron lui-même, en fait, a décidé du nom de la boîte parce que, justement, tout le monde avait... tendance à faire référence à son film comme un film d'horreur ou un slasher. Puis lui, t'es là, non. Les thèmes de mon film, c'est ça, tu sais. Donc, lui, il voyait ça plutôt, comme tu disais, comme un Blade Runner, tu sais, dans cette catégorie-là.
Donc, il y a de l'influence du slasher, mais ça va plus loin que ça, on est d'accord. Parce que
Je disais, il y a ces petits moments gore, entre guillemets, tu sais, où tu le vois se foutre le scalpel dans l'œil et tout.
Par exemple.
C'est en passant, c'est comme... Moi, je pense
référence au chien d'Alou de Buñuel.
C'est vraiment la scène classique du cinéma.
C'est vrai, peut-être.
Il y avait une autre référence que j'avais notée, puis j'étais super fâchée parce que je t'en ai parlé hier, j'ai pas retrouvé une autre référence. Il y a ça, à un moment donné, c'est avec une voiture qui... C'est pas la voiture qui écrase les crânes, mais c'est à ce moment-là. On n'a pas parlé des scènes du futur. Dans le futur.
Il y a une référence dans les scènes du futur. Tantôt, j'ai parlé de la jetée, là.
Ouais.
Puis c'est la photo de
Sarah Connor.
D'ailleurs, c'est un intermède dans le futur, là, où est-ce que, on voit Carrie dans le futur qui revient d'une mission, il va dans une base, puis la base est attaquée par un Terminator.
Ouais.
On découvre plein de choses à ce moment-là. Chiens servent à.
C'est ça, puis on découvre tout dépister, qu'il y a beaucoup d'enfants, qu'il y a des familles, ils attrapent le rat.
Les petites filles,
tu étais super bon. Est-ce que tu as les petites filles qui regardent la TV, puis tu te rends compte qu'elles se réchauffent devant la TV?
C'est super bon.
C'est bourré de détails comme ça dans ce moment-là qui rendent ça super intéressant versus juste une scène du futur où est-ce qu'on aurait tout le monde dans un coin qui met des détails comme ça avec la TV.
C'est ça. Puis pour se sauver de cette superbe description dégueulasse du futur que James Cameron fait, Kyle Reese s'assoit, puis il est comme tout en sueur. Il va pas dans son lit, là, il s'assoit à terre.
Sur
un coin de mur.
Il enlève même pas son fusil, il enlève rien, blablabla. Il s'assoit à terre, ça a l'air dégueulasse. Et il sort la photo de Sarah Connor jeune. Puis que je pense que c'est un peu plus loin qu'il dit « j'étais toujours aimé ». Dans le fond, il a toujours aimé à partir de cette vision de la photo. Il a aimé une photo, finalement. C'est ça qu'il faut qu'il a aimé une photo. Plus qu'un être humain qu'il a jamais, il a jamais eu de relation avec une femme.
Non, mais c'était au symbole aussi. C'était la mère du gars qui suivait. Il y a une histoire derrière cette photo-là.
On pourrait faire la psychanalyse de Carlu à ce moment-là parce qu'on sait qu'il est vierge.
Truc hyper intéressant aussi pour le film, je dirais, par rapport à son public.
Je me rappelais pas de ça du tout.
Par rapport à son public, ça parlait à son public, c'est-à-dire le jeune homme vierge qui était geek un petit peu. Puis que là, le héros, c'était lui, puis la fille, c'était la fille qu'il rêvait d'avoir, c'est-à-dire une jolie jeune femme, pas nécessairement compliquée. Mais donc, revient...
La jetée, c'est ça, c'est qu'il tombe amoureux d'une image. On pourrait développer d'ailleurs sur le fait que John Connor est vraiment un genre d'individu, une figure christique.
Il est mythique.
Ouais, il est mythique, c'est Jésus.
On le voit pas dans le film, dans le 2, on va le voir enfin, mais dans le premier, il est absent, on le voit jamais en fait.
C'est Dieu, il est né quasiment comme pas d'une vierge, mais il est né d'un homme vierge.
D'un homme vierge.
Puis après ça, l'homme vierge meurt. Et en plus, comment tu veux que Sarah Connor justifie qui est le père de son enfant à des humains de son époque? Elle ne veut pas dire « Ah oui, son père, c'est Kyle Reese, un homme du futur qui est mort en 84. » Non. Donc, le père est absent, le père n'existe plus. Donc, John Connor est Jésus.
Il y a de la pureté. C'est un personnage pur.
Exactement.
Puis c'est intéressant que ça soit le gars qui soit pur. D'habitude, c'est la fille qui est pure.
Le 2, Sarah Connor, là, on se doute qu'elle n'a pas eu d'autres relations. En tout cas, c'est pas clair si elle a eu d'autres relations. En tout cas, elle n'a pas eu d'autres enfants. Donc, elle est restée fidèle à ce personnage-là.
Mais dans le 1, on sait qu'elle en a eu.
Dans
le premier, c'est elle qui tape le gars quand ils font l'amour en plus. Je ne sais pas si vous avez remarqué ce détail-là. Ils sont ensemble, alors elle se retourne sur lui, puis c'est elle qui a l'air de savoir comment faire l'amour au gars qui est vierge.
C'est clair qu'elle a déjà eu une relation, parce que dans la discussion avec Carl Reese, elle est comme quoi? T'es vierge?
Non, mais c'est ça, c'est vraiment le fantasme du gars qui est à la charge de cette relation charnelle avec... Qui, en plus, c'est le fantasme genre, je vais être ton héros, je vais te sauver, mais tu vas être ma blonde, puis tu vas me montrer comment être un homme.
Ouais. Ah, c'est ça.
Au lit, quoi.
Puis, donc, tout ça pour finir avec la jetée, c'est que il est amoureux d'une image. Et c'est un peu comme dans la jetée, finalement, il revient dans le passé, et puis l'image auquel il a été de laquelle il a été amoureux se matérialise. Il a une véritable histoire d'amour, puis une histoire d'amour qui finit mal aussi. Dans la jetée, l'homme meurt, mais la fille reste vivante.
C'est exactement l'histoire du film Cheesy avec Christopher Reeve.
Ce qui est intéressant aussi, c'est que la dernière scène, ou je pense que c'est de l'avant-dernier plan. Dans le 1, c'est donc le retour de la photo. On comprend comment que la photo est
née à la jetée,
de ce jeune Mexicain qui la vend pour 4$.
Mais la photo est un flash-forward, en fait.
Exactement, la photo est un flash-forward. La photo, en tant que telle, là, je suis certain qu'on pourrait faire une grande analyse sur la photo. Parce qu'il y a plein de choses à dire.
C'est des choses super... Ça, c'est des détails intéressants. Moi, j'adore les flash-forward. Puis pourquoi j'avais beaucoup aimé 12 Monkeys puis la jetée, c'est cette espèce dans 12 Monkeys, c'est magnifique cette scène-là qui revient de ce flash-forward-là qu'on sait pas trop, c'est un rêve, c'est un, tu sais, comme nous aussi qui se situe.
Ouais.
Puis avec cette histoire horrible de l'enfant qui est témoin de sa propre mort, tu sais.
Ouais. C'est probablement, pour moi, c'est le meilleur court-métrage qui a été fait. La jetée, mais bon, ça, c'est un autre sujet.
La mise en abîme,
c'est clair, c'est une influence principale. Mais sur les rêves, Carl, dans le 1, Carl Reese, quand on voit le futur, Carl Reese, c'est les deux fois, c'est quand il. C'est dans les rêves, finalement. C'est la première fois qu'on voit le futur.
C'est les rêves qu'il fait, lui, c'est des cauchemars,
Il est dans sa voiture, puis là, il s'endort, puis là, il voit finalement des travaux de construction
d'industrie
lourde.
Ouais.
Puis là, dans le fond, le parallèle est.
Complètement.
Ouais, direct. Bon, voilà.
Les machines, les grosses lignes, l'industrie lourde.
Dans le fond, c'est le futur va arriver. Vous voyez, c'est l'avenir de l'humanité.
Ouais, puis ça finit dans la fabrique de robots, là, avec des robots partout.
Il meurt. Le Terminator se fait tuer dans une usine. Ouais. Je veux dire, il n'y a rien de plus parlant que, dans le fond, le Terminator revient là où ce qui a été créé.
C'est fou comment les films qui sont les plus cultes ont beaucoup de leitmotiv. Ils travaillent beaucoup, ils part de choses simples, puis plutôt que de se diviser dans plein d'affaires, il réenchère, tu sais, il crée une symphonie, en fait, au niveau de tes émotions, puis de ton affect. C'est pas quétaine que ça termine dans une usine, parce que c'est un hasard, tu sais. Il aurait pu rentrer dans une boulangerie, là.
Non, ça, il y a un sens,
court,
ça.
Il court,
ça aurait été très drôle.
Il court, mais c'est ce que je veux dire.
Ça aurait été moins bon.
Ouais. pas eu le même genre de fin.
Terminator couvert de pain.
On aurait essayé de comprendre pourquoi la boulangerie. Est-ce que c'est un génie? Ou est-ce que il est vraiment juste con?
C'est clair que le personnage est en train de courir puis rentre dans n'importe quel building, là. Ça pourrait être regardé. Ah, lui, non, pas lui. Ok, lui, tu sais.
Oui, puis ils ont une super conscience de tout ce qu'ils font, là. Genre, ils se font poursuivre par un robot du futur qui détruit tout. Puis, on va aller dans l'usine, on va peser sur les bons boutons pour faire marcher la presse hydraulique. Évidemment, là, on est dans Hollywood.
On n'est pas juste dans Hollywood. On est dans de l'impressionnisme, que j'appelle. C'est que le film ne cherche pas à être réaliste. Il cherche à te donner une émotion puis une impression des choses. Donc, autrement dit, le réalisme est secondaire à ce moment-là. Ce qui compte, c'est comme genre, on le dit, le thème, c'est la machine depuis le début. Qui oppresse, qui t'attaque, et là tout d'un coup l'humain reprend le contrôle sur la machine à ce moment-là, parce qu'il va en utilisant la machine si tu veux, mais il reprend le contrôle de la machine, quoi. La machine va le servir comme elle devrait, parce que la machine doit être l'esclave de l'être humain. Puis ça, c'est un autre thème.
C'est un autre thème qui est
intéressant puis qui est jamais évoqué. C'est comme la machine qui se rebelle contre l'humanité. On sait jamais pourquoi elle a fait ça. C'est d'où. Pourquoi dans le Terminator 1, ils le disent pas? Pourquoi les robots ont décidé de détruire l'humanité?
Vous voyez, c'est quoi? Je pense qu'ils disent, mais très vaguement, ils disent que l'humanité était une menace. L'humanité était une menace pour la survie de Skynet, finalement.
Mais on rentre pas dans
la psychologie de Skynet.
Tu parlais des références aux machines dans le film. Il y en a une au début aussi, quand elle reçoit un message sur son répondeur.
Oui.
Et puis le message, c'est genre « Allô, je vous ai bien eu, mais non, vous parlez à une machine. »
Elle le dit
clairement, quoi.
Ouais, c'est très drôle.
J'entendais ça, j'étais là. C'est la première bonne référence.
Et puis, il y a
aussi la transition après le générique aussi. Quand le premier plan 1984 que tu vois, c'est les bras du troc de vidange.
Oui, c'est ça, effectivement.
C'est qui descend. Ouais. Au début, tu te demandes encore si t'es dans le futur, tu sais pas trop, puis après, tu comprends que c'est un troc de vidange.
Ouais, c'est ça. Fait que là, encore une fois, il y a un lien entre passé et futur, qui sont pas si différents que ça. Ouais. Puis d'ailleurs, c'est super beau le plan. Sur un point de vue vraiment esthétique, c'est vraiment beau quand que Arnold arrive. Et puis là, genre, comme il marche vers Los Angeles, puis la caméra recule. Puis on a un plan super large de Los Angeles de la nuit et Arnold nu. Los Angeles. Puis ça, pour moi, c'était comme...
Passé dans un budget de 6 millions, c'était lui, oui, on prend une double.
J'avais le goût de mettre pause.
Non, c'est lui. Juste
j'avais le goût de mettre pause puis de faire un screenshot. Puis ça aurait pu être une affiche électorale pour Arnold Schwarzenegger. Parce qu'il est devenu le governator. Tu sais, dans le fond, c'est vraiment hot bon, parce qu'il a vraiment dominé politiquement la Californie par la suite.
C'est
là,
vrai.
Il est nu devant sur les hauteurs. C'est hot.
C'est vrai, ouais, c'est hot.
Puis c'est le Terminator qui arrive. C'est comme l'émergence d'Arnold comme acteur américain puis acteur politique en même temps.
Est-ce que c'est le film qui a vraiment révélé Arnold? Parce que bon,
ouais,
il y avait
je pense que
il y a eu les deux Conan, mais c'était, non, mais vraiment l'explosion là de Arnold.
Ouais, je pense que
c'est à partir de là.
Oui, je pense que
bon, le 2, ça a fait que établir son statut.
Après celui-là, t'as Predator, qui est quand même qui a été un gros blockbuster.
Ouais.
Puisque le premier Predator, c'est un bon film d'action des années 80. Maintenant.
Moi, j'aime beaucoup le premier Predator.
Ouais, le premier, il est
beaucoup,
bon.
Beaucoup,
c'est-à-dire
ouais.
que le deuxième n'écoute jamais ça. Puis après ça, c'est la pure bullshit. Mais le premier, t'es intéressant.
Ah, le premier, c'est moi, j'adore ce film.
Vrai, ouais. Sinon, après, il a fait quoi? Il a fait Commando.
Bah, il a fait
Commando,
mais
c'est
Commando,
absurde.
C'est un spoof complet du genre film d'action. Ça se prend tellement pas au sérieux.
Puis c'est plus tard là, qu'il a fait...
C'est un film où tu ouais. tiens des répliques.
Total Recall, il a fait ça...
Total Recall,
Total Recall, c'est 93, 94.
Attends,
94.
Ben, on va voir.
Ouais, c'est ça, mais ça fait c'était dans la lancée.
C'est James Cameron, ça aussi.
Non.
Oui.
Non.
Total Recall, c'est Paul Verhoeven.
Ah, Total Recall, je pensais que tu parlais de True Lies, pardon.
Total Recall,
c'était plus tard.
Total Recall, c'est 88 ou 89.
80.
Ouais, ça, le col, c'est Verhoeven.
Moi, c'est un film que j'adore.
Ah oui, très bon.
Puis je trouve que Schwarzenegger, il était très bon là-dedans. Il y avait parfaitement le personnage.
Ouais,
dans quoi tu dis, dans quoi?
Total Recall.
Total Recall, ouais. Faut que je le revoie.
Ah, il était bon, celle-là. C'est pas mal son meilleur des années 80.
Total Recall, c'est 90.
C'est vraiment son meilleur film à Schwarzenegger, je trouve.
J'ai vu, dernièrement, j'ai revu The Running Man. Avec Arnold Schwarzenegger de 87.
The Running Man.
Oh mon Dieu, que c'est nul.
87, ouais.
The Running Man,
c'était tiré
c'est un roman.
D'un roman de Stephen King. Et
ouais, je l'ai vu, mais je pensais que c'était Stallone.
Et non,
c'est Arnold. Moi, j'avais lu le roman quand j'étais jeune.
Moi, j'ai lu le roman, moi aussi.
Puis j'avais trippé, j'avais lu le roman, je me souviens, dans l'autobus scolaire quand j'allais à l'école. j'avais trippé, c'était le fun. Puis quand j'ai vu le film, j'ai revu ça dernièrement.
Mon Dieu. Stephen King sont souvent intéressants.
Il y avait eu cette polémique parce que ça aurait été un plagiat du Prix du Danger, tu sais, le film français. À peu près à la même époque, qui était venu juste avant, je crois.
Okay.
Et qui raconte quasiment la même chose, mais dans un setting de l'époque, c'est pas dans un truc futuriste, tu sais.
Ouais.
Mais même chose, tu sais, genre.
Mais
Running Man.
Programme télé, machin.
C'est ça, Running Man, c'est encore une dystopie radicale, un peu comme je te montre.
Ouais.
C'est très années 80 dans cette optique-là.
Ouais, c'est super noir aussi, là. C'est noir sur la.
Mais oui, ça fait penser justement à. Je disais que je suis né en 84, t'as 1984. Je fais un parallèle aussi avec Orwell. C'est 1984.
Mais 1984.
On est dans cette époque-là.
Non, mais
1984,
c'est autre chose parce que dans des films comme tout qu'on a évoqué, en fait, c'est une désillusion de la compagnie, du capitalisme classique. En fait, c'est du corporatisme, en fait, qui. Non, les gens critiquent pas tellement le capitalisme parce que pour l'Américain moyen, le capitalisme est un système. Non, mais c'est un système qui est différent du corporatisme, en fait. Parce que tu peux être capitaliste et critiquer le corporatisme parce que le corporatisme se veut comme pas respecter les lois du marché, justement. T'sais? Ils vont faire des espèces de monopoles qui vont dénaturer cette espèce d'idée du laisser-faire, laisser-aller. Mais en gros, c'est vraiment la peur des gens très riches, de la grosse compagnie qui est inhumaine, la corporation. T'sais?
Ouais.
La corporation qui est une personne morale puis qui est une aberration... comme tel, quand tu regardes le film The Corporation, ça dénonce l'idée de la corporation qui, selon beaucoup de gens, n'a rien à voir avec le capitalisme, à part. Mais dans Orson Welles, 1984, c'est vraiment l'idée du totalitarisme gouvernemental. Il n'y a pas de... T'es dans une espèce de... C'est le staliniste là, qui est mis au banc des accusés, là. Puis t'es plus proche de la Corée du Nord, t'es plus proche d'une idée où est-ce que l'être humain va être... contrôlé par un système politique, pas par Donc c'est, il y a une différence. Bon, ça reste des idées totalitaires où est-ce que l'humain est victime de quelque chose de plus gros que lui, mais je trouve que c'est pas la même chose. Je trouve que 1984 va chercher quelque chose d'autre. C'est comme... Vous me suivez?
Ben, dans Alien, la compagnie, c'est vraiment un monde totalitaire.
Mm-hmm.
Dans Blade Runner,
mais
comment ça s'appelle le...
Mais comment un monde totalitaire?
Mais c'est un monde totalitaire presque à la...
Comment ça, un monde totalitaire? La domine tout, la compagnie...
Oui, mais c'est peut-être plus proche du meilleur des mondes à ce moment-là que de 1984.
Ouais, c'est
dans
Running Man, en tout cas, c'est ça aussi.
Dans ces histoires-là, dans Running Man aussi, t'as le peuple qui est complètement heureux, assouvi, naïf, mais pas dans, évidemment, pas dans Terminator, le futur où que les machines ont gagné. Mais là, on parle pas des êtres humains, justement. On est pas dans quelque chose comme, on est même pas dans 1984. Dans 1984, les gens vivent sur un système où est-ce qu'ils sont profondément malheureux, mais obéissants, OK, à une règle qui leur dit, tu es heureux parce que tu es pur. C'est la pureté, c'est la vertu. Tandis que quand tu rentres dans un truc comme, Blade Runner, par exemple, l'être humain vit dans une espèce d'espace où est-ce qu'il y a des jeux, c'est bling-bling, c'est comme l'espèce de Los Angeles, là, tu sais, genre avec la fille, le serpent, il y a l'espèce de... C'est vulgaire, c'est pas pur, tu sais, c'est comme dans Terminator, on est dans la non-pureté, tu sais. Donc là, le cyberpunk est impur, tu sais, c'est la drogue, c'est les bandits, c'est les méchants Robocop, c'est toute l'idée de Robocop, c'est pour vaincre une criminalité rampante. Donc c'est grouillant de vermine. Dans Terminator, ils mangent des rats. Tandis que dans 1984, les gens sont pauvres, les gens sont effrayés, sont contrôlés. Donc ils sont ramenés à une espèce d'idée un petit peu de la... C'est très religieux, là. T'es proche de l'Inquisition. T'es dans une espèce de mythe d'une... Il y a la pureté, il y a la vertu. Puis moindrement que tu questionnes ça, oups, on t'élimine, on te torture, on te brainwash.
Ouais, c'est clair. Mais c'est parce que 84 comme le meilleur des mondes, 1984 comme le meilleur des mondes, sont deux romans qui préfigurent finalement la postmodernité, ou tu sais, vraiment qui préfigurent genre comme une époque que moi j'identifie aux années 80, mettons, qui commence dans les années 80, qui est une époque qui est en réaction à la période des années 60-70, mettons.
Ah oui,
c'est une
clairement.
Période d'utopie, de contestation, de... Puis là c'est une analyse en soi, là. C'est la fin des 30 Glorieuses.
En 1904...
C'est la fin d'une période économique. C'est le début d'une récession profonde.
Récession.
Donc.
Une déception, en fait. C'est une désillusion
sur une période très riche.
Ou c'est un retour à la normalité, je te dirais aussi. On peut le voir comme ça. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu as eu la guerre. Ou est-ce que c'était. Tu as eu la dépression des années 20. 1928, ouais. Suivi tout de suite de la Deuxième Guerre mondiale, qui était une immense atrocité partout dans le monde, là. En Asie, en Europe, aux États-Unis moins, mais quand même, il y a beaucoup de gens qui ont fui l'Europe pour aller aux États-Unis avec leur bagage émotif culturel. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après la Deuxième Guerre mondiale? On veut plus rien savoir. Les années 50, ouais. C'est beau. C'est clair, c'est le futur, c'est le mythe, c'est le rêve. Et là, on part, et les gens vont souvent dire que les hippies étaient en réaction aux années 50. Mais non, moi, je pense qu'ils continuaient. C'était une progression encore plus loin. C'était les jeunes qui étaient nés dans les années 50 qui, eux autres, trippaient encore plus. On va aller vers la paix, peace and love, peace and love, peace and love. Et qu'est-ce qui se passe dans les années 80? C'est que là, qu'est-ce qu'ils font, les gens qui sont dans le peace and love? Ils deviennent des yuppies. Autrement dit, ils deviennent des humains normaux. C'est-à-dire que tous leurs beaux idéaux, ils les mettent un peu de côté. Ils font des compagnies, ils deviennent un peu plus égoïstes, ils ont une famille. Ils retombent un peu dans la normalité. Puis les jeunes des années 80, ben, les punks et tout, sont un peu désillusionnés. Ils ont comme... Voilà. Il se ramène à une certaine normalité, ou un cynisme, en fait, naturel, de dire, ouais, ben, l'être humain, il est pas parfait, les hippies, il y avait tort, ça arrivera pas, cette espèce du dobby-là, baba cool, bizenla.
Ouais, ouais, sauf que, en tout cas, il y a plusieurs choses à dire là-dessus, mais les années 50, premièrement, c'est vraiment une époque, très conservatrice.
Oui.
C'est le maccartisme, c'est l'anticommunisme primaire, c'est vraiment...
Tout à fait, oui, oui, aussi.
Fait que les années 60 sont en révolte radicale contre les baby-boomers, contre... Ouais. Ouais, pas contre les baby-boomers, pardon,
c'est les baby-boomers. Pardon, ce sont les baby-boomers.
Sont en révolte radicale contre leurs parents, ceux des années 40, ceux qui ont vécu la guerre. par exemple, cette fameuse question que les jeunes en Allemagne
on peut le voir comme ça,
se posaient sur les qu'est-ce qu'avaient fait leurs parents pendant la guerre. Tu sais. Quand t'es un jeune Allemand de 20 ans dans les années 60, tu te dis qu'est-ce que faisait mon père pendant la guerre? Où était mon père pendant la guerre? Tu sais. Bon, ces questions-là, elles ont été appliquées aussi à la société américaine. Qu'est-ce que faisait mon père pendant la seconde avec la question justement comme des droits civiques? Qu'est-ce que, où étaient mes parents? Tu sais, où, toutes ces questions-là ont été extrêmement importantes pour la jeunesse qui était en plus en...
Non, non, mais c'est tout à fait vrai, mais je pense quand même que tu peux faire cette analyse-là, mais tu peux faire aussi l'analyse qu'il y a une continuité au niveau de la pensée que la guerre est finie, tu sais, puis on est positif. On est dans une espèce... Autant même
sauf
si t'es conservatrice.
C'est l'âge atomique. C'est les années 50,
c'est les tests atomiques. C'est la guerre froide.
C'est la guerre froide, ouais. C'est la menace communiste, c'est la chasse aux sorcières à Hollywood... C'est moi, je vois absolument aucun progressisme dans les années 50. Là. J'ai vraiment les marginalités. En plus, même d'un point de vue purement politique, ce qui détermine les années 60, c'est un renouveau de la contestation, ce qu'on appelle la nouvelle gauche.
Mais ce qui
les années 50, non, mais c'est le stalinisme, c'est l'URSS, c'est la mort de Staline, mais c'est vraiment
ce qui s'est passé dans les. Ce qui s'est passé dans les années 50, c'est que t'es dans une période de d'une espèce de volonté de retourner au statu quo d'avant la guerre, tu sais. Donc, ils se sont créés une espèce de mythe, mais cette idée-là de la femme ménagère à la maison qui s'occupe de son mari, qui amène son petit repas, qui a que la nouvelle technologie du frigidaire, de la laveuse, des petites machines, que tout est propre, des petites banlieues tout propres, avait jamais existé. Elle avait jamais existé, ça.
Non,
la banlieue n'existait pas.
C'est ça, l'arrivée de la télévision.
La télévision n'existait pas et tout. Donc, tout ça est arrivé à ce moment-là. Puis oui, tu avais tous ces réactionnaires-là, tu avais ce conservatisme-là, mais qui était... Moi, je pense qu'il représente autant... Voilà, écoute, on fait de la philosophie, là, puis tout, là. Je pense qu'on pourrait vraiment faire une thèse comme quoi ce qui est venu après, donc les enfants qui sont partis dans l'utopisme de paix, etc., étaient en réaction, mais étaient aussi en continuité. C'est les deux. Les deux sont vrais, tu sais. Il y avait une continuité de cette espèce de volonté-là d'un monde parfait, idéalisé, paisible, beau, d'un côté conservateur et d'un côté pas conservateur. Si tu veux que ce serait quoi l'inverse du conservateur, ça serait progressiste. Mais dans les deux cas, il y avait une espèce de refus du cynisme. Et quand les années 80 sont arrivées, autant les conservateurs que les progressistes sont devenus cyniques. Les deux se sont ramenés à un autre niveau.
Mais c'est une critique qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est la critique de la génération des années 68, qui finalement, ce qu'on entend, c'est... Puis ça va dans ce que tu dis, dans mon sens, ce que tu dis, c'est finalement la génération des années 60, c'était une génération qui a voulu plus consommer, encore plus consommer. Puis dans le fond, consommer quoi? C'est consommer des plaisirs individuels. Bon, bah, évidemment, pas la drogue, mais pas juste la drogue, tu sais, vraiment, c'était...
La musique,
jouissait sans entrave,
le vêtement, les modes...
Donc c'était une réforme libérale des mœurs de la société. OK, puis là peut-être qu'on peut voir effectivement avec un parallèle dans les années 50, ou est-ce que les années 50 c'est quoi? C'est effectivement, c'est vrai, c'est l'apparition de la société de consommation.
Ouais, c'est la naissance,
c'est l'américanisation du monde. Effectivement, les années 60, c'est peut-être une jeunesse qui dit nous voulons contrôler ou avoir une part plus importante dans cette société de plaisir là, ou nous voulons réformer cette société de plaisir pour l'adapter à nos plaisirs, à ce qu'on veut expérimenter de nous, sans remettre fondamentalement en question la société capitaliste mondialisé à cette époque-là. Attends, juste rien sur les années 70-80. Oui. Puis ce moment-là, les années 60-70, sont des moments extrêmement importants parce que quand que ça se passe, c'est des périodes de grande lutte. C'est-à-dire, maintenant, aujourd'hui, on peut faire une critique comme je viens de faire, mais les années 60-70, c'est quand même une des périodes, la dernière période. Dans l'histoire moderne, là, où est-ce qu'il y a eu des aussi grandes luttes sociales.
Ouais.
Fait que là, les années 70 qui se terminent avec la défaite de pas mal toutes les aspirations révolutionnaires ou les aspirations des mouvements sociaux de l'époque, effectivement, c'est la vague conservatrice que j'ai
Reagan
nommée au début
avec
Reagan, Thatcher en Angleterre, Mulroney au Canada. Donc, tout ça, c'est finalement une espèce de retour du balancier en Occident.
Ouais. Ça, c'est 80.
C'est ça. Puis
en
là,
90,
c'est là
on
que, mettons,
ailleurs.
Un auteur comme Bret Easton Ellis, qui a écrit American Psycho, vous avez qui a un très bon film quant à moi, mais qui est aussi un excellent roman, puis qui est un très bon auteur, qui est l'auteur américain des années 80, ou même à la limite un romancier comme Paul Auster qui est aussi
c'est brillant l'American Psycho comme critique de la société.
C'est brillant parce que ça montre justement le cynisme ou l'individualisme que tu décris, mais le retour à la normale que tu décris finalement c'est un retour pas nihiliste mais un retour cynique, individualiste, très froid, mais qui est finalement très à droite là, qui est sur le plan de la morale, qui est très à droite, parce qu'il faut, pour avancer dans cette société individualiste, il faut respecter la hiérarchie et l'ordre. Mais en même temps, la vie privée que ces Golden Boy, que ces jeunes années 80 ont, qui est une vie privée très privée. C'est-à-dire que ce qu'ils font dans leur vie privée ne regarde que eux et leur, tu sais, dans le fond, c'était un monde en vase clos. C'est, dans le fond, la société est séparée en castes, littéralement. T'as, à côté, t'as les jeunes riches qui font de la cocaïne qui vient de Pablo Escobar, ils en font à profusion.
Ouais.
Puis de l'autre côté, genre, t'as les jeunes noirs des ghettos qui fument du crack, tu sais.
Ouais.
Puis, dans le fond, il n'y a pas de morale. Il y a comme
les années 80.
Comme une contradiction, parce que d'un côté, c'est des jeunes conservateurs qui sont reaganiens, donc qui vont peut-être voter Reagan. Donc, ils votent pour la morale, l'ordre moral à respecter, mais de l'autre côté, la société leur offre la possibilité de laisser libre cours à leurs pulsions. Fait que là, il y a quand même un lien avec la génération 68, parce que la société leur donne le droit, de manière privée, de laisser libre cours à leurs pulsions et à tous leurs désirs avec l'argent. Trump est un bon exemple de cette génération-là.
Trump, c'est l'enfant d'American Psycho.
Ben, c'est ça, c'est pouvoir. Puis là, bon, l'histoire avec les femmes qu'il a agressées, c'est exactement ça. Fait Terminator 1,
pour boucler la boucle,
Terminator 1 est le film d'un homme de cette génération-là. De James Cameron est un homme de cette génération-là.
Des années 80.
C'est ça, c'est lui, il l'a vu ça. Puis moi, ce que je pense, c'est que dans Terminator, il a voulu incorporer ces éléments-là dans son esthétique, dans son récit, ça traverse vraiment tout le film. C'est pour ça que je l'aime, finalement.
Ouais.
C'est parce que...
c'est un film sincère, en fait. C'est un film... sincère, authentique. C'est peut-être plus le mot que je cherche.
Authentique, ouais.
Très authentique. Ouais. Puis c'est pour ça qu'il marche, en fait, parce qu'il est... le gars qui a fait ça, il se posait pas juste la question, tiens, je vais faire juste mon film d'action et tout. Il a été plus loin, là. Il était incarné dans son époque, puis... les années 80.
Mais c'est ça, je parlais de ça avec Philippe Toupin. Salut Philippe, si tu nous écoutes.
Je sais pas si Philippe nous écoute. Je sais qu'il est venu quelques fois.
Il est venu quelques fois, oui.
Mais on avait une grosse discussion l'autre jour au studio, Philippe et moi, parce qu'on parlait de Star Wars, justement. Puis lui, c'était un fan fini de Star Wars. Puis il m'a comme décrit en long et en large une image du trailer du dernier Star Wars, de Force Awakens. Puis là, il l'a comparé avec une image d'un personnage qui ressemblait à ce qu'on voyait à l'écran là, dans Force Awakens, mais une image tirée du premier Star Wars. Puis là, c'est intéressant comme discussion ce qu'on a eu, parce que là, la discussion était sur comment ça se fait que ce personnage-là ait pu représenter de la même façon. Qu'est-ce qui a changé dans la représentation de ce personnage? Puis le personnage en question, c'était dans The Force Awakens, c'est le personnage de Rey.
Mm-hmm.
Qui, vous le voyez, mais dans la première fois qu'on le voit, le personnage dans la bande-annonce, c'est exactement le même look que les Hommes des Sables dans Star Wars.
Ah oui, avec le masque et tout.
Ça, là.
C'est vrai.
Bon, puis là, dans le fond, on a comparé cette image-là avec la première fois qu'on voit les Hommes des Sables dans le premier Star Wars.
Okay.
Là, il y avait plein de différences objectives là, qu'on pouvait voir. Puis là, Philippe, lui, il trouvait que l'image de Force Awakens était absolument dégueu. Il comprenait pas comment ça pouvait être aussi... lui, dans le fond, ce qu'il disait, c'est que ça avait... On sentait le digital, on sentait vraiment que l'image était quasiment tournée comme avec une 5D. Et pourtant,
ils ont filmé avec les objectifs en 35 mm.
Mais là, on a argumenté sur justement la post-prod.
Ouais.
Puis sur l'effet que les films des années 80, comme Star Wars, mais comme Terminator, comme Predator, comme tous ces films-là, l'effet que ça nous laissait comme spectateurs, tu sais. Puis c'est, mettons, pour le dire plus simplement, c'est que on avait vraiment l'impression d'y être. Ouais. C'est-à-dire que c'était pas un monde numérique où est-ce que plein de choses se passent à l'écran qui nous stimulent.
C'était tangible parce
la caméra bouge vite, ouais. On se déplace dans l'espace en même temps que le... Puis là, on change d'ambiance. Non. Tu sais, mettons Blade Runner, par exemple, même si c'est un monde futuriste qui duquel on ne se sent pas concerné.
Mais on se sent tout à fait dans
mais
cet espace-là.
Mais on se sent dans ce monde-là. On reste dans ce monde-là.
Il y a des détails aussi de la vie quotidienne qui sont tellement, tu sais, comme quand il s'en va comme dans le champ d'attente, manger.
Oui, c'est ça, c'est nous.
Chez lui, on le voit chez lui.
Mais c'est le rapport aussi à je sais pas, c'est ça qu'il faudrait explorer comme question. Ouais, à la matière.
Oh, ben c'est déjà rien que le fait que c'est tourné en décor, avec la figuration, avec de l'éclairage. Tu sais, genre, et puis, oui, il y avait du matte paint, il y avait ci, il y avait ça, mais je veux dire, il n'y avait pas d'effet numérique pour modifier toutes sortes de choses dans l'image que
l'image,
ce qu'ils font maintenant.
Les cadrages, c'est ça, simple. Ouais. Ouais, dire, souvent, on a des cadrages assez fixes.
Ben, ils sont réfléchis.
Des mouvements lents, cadrés.
Après Jurassic Park, il y a eu un abus des effets numériques. Ils sont devenus magnifiquement bons. Puis oui, il y a des films là, que c'est super beau. The Matrix, c'est vraiment
un Matrix,
classique.
C'est ça. Matrix, c'est ça qui a tout... c'est vraiment un shift dans
l'industrie. Oui, c'est ça. Mais c'est ça. Matrix,
ça sert le discours du film aussi.
Oui, parce que c'est ça. Effectivement, tout est faux. En fait, c'est ça. Tout est faux dans The Matrix. Ça
James Cameron, tu vois, James Cameron, c'est lui qui est vraiment un pionnier de ce changement-là.
Avec
sûr. Terminator 2.
Terminator 2 fait partie des films qui ont changé.
Puis Terminator 1, on peut le voir comme ça aussi. C'est un film culte de cette génération-là, mais c'est un film qui a aussi propulsé James Cameron pour devenir ce méga producteur qu'il est. Ne pas oublier qu'il a réalisé Titanic. Hein.
Ce méga réalisateur. Ce réalisateur-là qui est impressionnant parce qu'il a fait les films les plus chers de l'histoire du cinéma à répétition qui sont devenus
qui
les films aussi les plus rentables de l'histoire du cinéma.
C'est ça. Donc, il a comme... Moi, je pense que ce gars-là, il est bright, évidemment. Il a une connaissance...
Non, c'est un mec brillant, là.
...des apports de la technologie sur ses œuvres, mais d'un point de vue, évidemment, commercial, mais aussi d'un point de vue scénaristique ou de la forme, mais c'est un businessman hors pair. Là.
Je pense, quand je te disais tantôt que toi tu vois dans Terminator une intention de James Cameron, moi je te dis que c'est malgré lui, dans le sens que cet homme-là est une éponge de sa société. Je pense que c'est quelqu'un qui est très, très, d'un point de vue artistique, où est-ce que tu es comme une espèce d'antenne qui capte tout, OK? Ouais. Puis ton talent en tant qu'artiste, c'est de le retransmettre. Puis il y en a qui sont avant-gardistes, comme les Amadeus Mozart, si on se fie au film d'Amadeus, où est-ce que lui, il va faire de la musique magnifique que les gens de l'époque écoutent, sont comme... Puis après sa mort, 30 ans plus tard, c'est les chefs-d'œuvre, puis aujourd'hui, on écoute encore ça. Ben Cameron, lui, son avantage, c'est qu'il est dedans, tu sais, je veux dire, au même moment qu'il fait son truc, ça marche avec le monde. Donc, c'est pour ça qu'il y a des succès comme... Moi, Titanic, je suis flabbergastée. Quand j'ai vu ce film-là, j'étais comme, ben voyons donc. Comment les gens peuvent aimer ça autant, ce film-là?
Ben ça me fait penser...
J'aimerais ça le revoir pour essayer de comprendre pourquoi ça a marché. C'est sûr que je me suis pas emmerdée en regardant ce film-là. Tu peux pas t'emmerder en regardant un film de Cameron. C'est comme tu peux pas t'emmerder en regardant un film de Spielberg. Là, faut que tu te forces un petit peu, Spielberg. Ouais. Bon, il y a quelques mauvais films de Spielberg, il y a quelques mauvais films de Cameron, je crois. Je sais pas les nommer lesquels. Mais ultimement, en général, ton cerveau... Ton corps, ton physique est engagé dans l'action, tout se passe, t'as pas le temps de t'emmerder qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, t'as une information, t'es curieux, tu veux savoir où est-ce que ça s'en va, t'es stimulé visuellement, les plans sont beaux, il y a pas d'incohérence, il y a pas de longueur, qui est pas nécessairement une qualité ultime, parce que des films avec des longueurs, il y en a plein que je peux te nommer qui sont magnifiques, puis que c'est pas des fois bon de s'ennuyer dans un film, mais ce sont des films qui sont très, très bien faits pour le public du moment où est-ce qu'ils sont faits. Puis je pense que Terminator, on le prendrait, on le montrerait à des gens aujourd'hui, des jeunes, peut-être qu'ils le recevraient moins bien que nous, on l'a reçu à l'époque aussi, tu sais.
Ben, ce qui n'est pas le cas avec Avatar, en tout cas, tout le monde l'a bien reçu.
Oui, parce que quand c'est sorti, tu sais.
Oui, c'est ça, mais...
Ça marche maintenant, ces films-là, tu sais.
Ouais, mais... Moi, je reste sur l'idée.
Est-ce qu'Avatar, c'est comme... Tu sais, dans Slash Film, il y a eu le... c'est revenu souvent le débat sur... Quelle est l'empreinte culturelle qu'a laissé Avatar
Est-ce qu'aujourd'hui on
réécoute? Est-ce qu'on parle d'Avatar?
Moi, j'ai jamais réécouté Avatar.
On parle toujours de Terminator, mais on parle.
Mais Avatar,
on parle pas
d'Avatar. Parce qu'il y a deux choses. C'est vraiment la technologie.
Oui. Seule raison.
Mais la technologie, après, bon, on vit dans une époque qui est ultra stimulée, ultra stimulante.
Ouais.
La technologie change super rapidement.
C'est sûr que le contexte est différent.
Puis c'est le.
Mais je veux dire, c'est vrai. Mais quand tu penses, c'est pas un film. On cite jamais ce film-là. Il y a aucune réplique que tu retiens de ce film. Moi, j'ai beaucoup aimé Avatar. Je le revois avec plaisir de temps en temps. Mais
Avatar.
Ouais. Mais je veux dire, il y a pas. Il y a comme pas.
Mais Avatar, c'est comme Danse avec les loups.
C'est le même film, ouais.
C'est la même chose.
J'avais
oui, oui,
oh,
bah, ça, on va pas rentrer dans le débat. De...
Il n'y a rien de très original dans le sujet.
Non, mais c'est un film hyper raciste, l'Avatar. Il n'y a pas plus raciste que ce film-là. C'est comme Danse avec les loups. C'est l'homme blanc qui va aller sauver l'autochtone victime, tu sais. Qui lui-même n'est pas capable de se sauver lui-même. Là. C'est le mythe encore de...
Oui, puis il faut qu'il prenne l'identité de...
Non, c'est... non seulement ça, mais il est capable de prendre l'identité. Ouais. Il va réussir à prendre l'identité d'un autre, devenir l'autre et le sauver. Moi, je trouve que c'est la chose qui me fait le plus vomir.
Mais tu vois, c'est un renversement avec Terminator 1. Parce qu'en Terminator 1, le Terminator prend l'identité des...
Oui, c'est
des
vrai, il prend l'identité des humains.
Pour les détruire.
Oui.
Ça, c'est intéressant parce que le Terminator reste lui-même. Ouais. C'est un personnage qu'il n'y a pas de doute. Il y en a des doutes parce que, comme je disais tantôt, on se demande s'il est humain ou s'il est inhumain. Mais il reste son personnage fort, central.
Mais tu as raison, Terminator est l'antithèse d'Avatar.
Bah oui, totalement.
Ouais, c'est vrai.
C'est l'inverse, c'est le black and white, là, c'est le négatif. Ouais. Là.
Puis, mais même, tu vois, en plus, c'est ça, c'est que Terminator, le film dans son ensemble est vraiment. Je veux dire. C'est vraiment l'inverse de Avatar. Avatar, c'est la plus grosse méga machine, méga production, la super.
Terminator, c'est très simple, ça n'a pas coûté cher.
Jusqu'au personnage du scientifique dans Avatar qui est sympathique. Avec Sigourney Weaver qui est un personnage intelligent, sympathique.
Qui est replay en plus.
Qui est replay.
En plus,
non, c'est ça, mais non, c'est pour ça que moi j'aime beaucoup plus la science-fiction des années 80 pour ce côté sombre. Puis au niveau du récit, mais aussi au niveau de la mise en scène, qui est beaucoup plus intéressant visuellement, parce que justement, tantôt quand tu disais les scènes d'action en Terminator 1, tu sais, on, je veux pas dire qu'on y croit parce que ça reste un film évidemment, mais
on adhère.
C'est le montage est assez rapide des scènes d'action, mais on a le temps de distinguer qu'est-ce qui se passe.
Oui.
Il n'y a pas mille explosions partout, il n'y a pas mille personnages qui tirent sur
ça. C'est vous ce que je fais comme
un film. Il y a trois personnages.
Puis il y a un vrai robot dans certains plans qui est là, c'est pas un machin en CG.
Ça reste relativement simple.
Ils ont construit un robot.
Moi, c'est ce que je fais quand je regarde un film d'action de nos jours. Là. Mon obsession, là, quand la scène d'action commence, là, je compte. La durée se plage comme 1, 2, ah, next, 1, 2. Je suis tellement pas impliquée dans ce qui se passe que, bon, c'est peut-être parce que je fais des films, puis que j'ai fait du montage, puis que je. Mais je suis tellement pas impliquée, puis Dieu sait que je suis bon public, hein. Je suis vraiment pas la fille qui fait des films, qui regarde un film en disant ouh, regarde, ils ont utilisé telle lampe et tout, puis là, il y avait telle machine et tout, puis là, je suis vraiment la personne qui sent pas l'équipe technique, qui sent pas le truc, parce que je vais jamais voir un film pour ça. Mais dans les films d'action, là, ah, mon Dieu, je peux pas supporter cette espèce de... Ben, la mode Michael Bay, là. Poum, 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 puis les caméras qui bougent, puis t'as mal au cœur.
Ça, c'est justement... Dans le fond, qu'est-ce que sont ces films-là? C'est des purs produits de consommation à consommer, c'est tout de suite. Puis que d'ici 2 mois, après leur exploitation, on oublie. Puis que, bon, après ça, ces films, ont une fonction. Vraiment, là, ils ont une fonction de divertissement dans notre société. Puis là, tu sais, mettons, je sais pas comment ça s'appelle, la fille dans Transformers, là, qui était super populaire parce qu'elle était dans Main Cute.
Ah, Megan Fox.
Megan Fox, qui est devenue la nouvelle égérie. Va durer combien de temps? Ça va durer 5-6 ans, le temps que tout le monde, genre, comme fantasme sur elle.
C'est déjà fini.
On va finir par
avoir un autre. Puis dans le fond, c'est une culture d'abrutissement sauvage. Bon, mais James Cameron, il participe quand même malgré tout. Tu sais, je veux dire, Transformers, par exemple, c'est... Le pire exemple qu'on peut utiliser, mais Titanic, là, je veux dire, l'espèce de romance béate entre...
Moi, je trouve que Titanic, ça marchait.
Kate Winslet, puis... Oh, puis tu sais, dans le fond, c'est encore le mythe de la petite princesse sauvée par le... Oh, fuck off, tu sais. On l'a vu 5000 fois.
Mais c'est James Cameron, il est comme un peu ambigu par rapport à ça, à cause de Aliens. Dans Aliens 2, il donne vraiment une part très forte à Ripley, qui est le personnage fort...
Oui, c'est un
des très beaux personnages féminins. C'est vraiment le personnage de Ripley dans Alien 2, encore plus que dans le 1. Dans le 1, elle fait partie d'une équipe. Elle est parfaite, elle s'émancipe. Elle est une femme qui n'est pas une femme, en fait. Puis d'ailleurs, c'était supposé être un gars. Hein. C'est un hasard qui a cassé une femme.
Mais regarde, Terminator 2, Sarah Connor prend tout son... Tu sais, il y avait eu la série Dark Angel qui était produite par Cameron aussi, qui était toute centrée autour de Jessica Alba. Il fait partie de ces réalisateurs un peu à la Joss Whedon qui a toujours des personnages féminins forts, tu sais.
Ou à la Tarantino.
Ou à Tarantino, c'est vrai. À sa manière, cool, bon, c'est du gros commercial, machin. Mais
non,
mais
c'est ça, j'ai l'impression que Cameron est sincère. Puis je pense qu'un film comme Avatar, ça montre juste à quel point on a intégré une espèce de racisme coupable, tu sais, qui est comme vraiment aberrant. Puis je veux dire, commercialement, je serais vraiment curieuse d'avoir une conversation avec James Cameron puis dire tu te rends-tu compte que c'est le personnage de l'homme blanc qui devient un héros là, tu sais, ouais. Il pourrait être humble puis joindre la résistance puis être juste un petit
coup. Non, mais pour survivre, il faut qu'il fasse. C'est ça l'affaire, c'est que pour survivre, il faut qu'il soit transplanté dans un corps.
Ouais.
Ouais.
Donc c'est là toute l'ambiguïté, genre.
Ouais, ouais, ouais.
Mais en même temps.
Mais en même temps, ça reste.
En même temps, ça reste que c'est lui.
À part ça, dans Avatar, moi je trouve que le personnage féminin de Neytiri.
Ouais.
C'était super intéressant, super
oui,
fort.
Oui, mais elle a quand même
beaucoup plus
que
intéressant que Jake Sully.
Oui, mais bon, tu sais, je veux dire, je lancerais vraiment pas des pierres à James Cameron parce qu'il fait quand même partie des gens qui ont donné des places de personnages féminins intéressants
ouais.
qu'on voit de moins en moins maintenant. Puis ouais. C'est regarde, effrayant
dans
comment...
Dans Abyss
que...
aussi, dans Abyss, tu sais, ouais. le personnage de, comment ça s'appelle, Elizabeth Mastrantonio, tu sais, qui donne la réplique à Ed Harris, tu sais, l'ex-femme d'Ed Harris. Qui est aussi un personnage super fort, entêté même, tu sais.
C'est un bon film.
Ouais,
non,
bon
c'est clair qu'ils aiment les femmes de caractère. Là. Ils aiment pas les petits personnages nounuches. Ces personnages féminins, ils sont incarnés, ils sont bons. Même dans Titanic, c'est un personnage qui est quand même
Dans True Lies, c'est encore Jamie Lee Curtis qui finalement finit par résister à son mari, qui est Arnold.
Faut le faire.
Ouais, faut le faire.
Est-ce que ça vient du fait que à cette époque-là aussi, tu sais, il avait été avec cette productrice Galen Hurd, tu sais, qui d'ailleurs que je viens d'entendre en entrevue dans The Nerdist, tu sais, le podcast The Nerdist.
Ok, non, je suis pas de The Nerdist. Il va falloir qu'on en parle.
Super podcast avec des très bonnes entrevues et je pense que c'est là-dedans que je l'ai entendu. Et c'est soit ça, soit le WTF de Marc Maron, mais je pense que c'est Nerdist. Et il y a une très bonne entrevue avec Galen Hurd. Et puis elle repart justement de tous ses débuts avec James Cameron, tout ça. Parce que maintenant, elle est productrice de Walking Dead. T'sais.
OK.
Donc, genre, productrice à succès.
Qui joue ce soir, d'ailleurs.
Quoi?
Qui recommence ce soir.
Ah, moi, j'ai pas su Walking Dead.
Ah!
Ça fait partie des choses qu'il va falloir que je me tape
ça
en ville.
Ça repart ce soir, Walking Dead!
Walking Dead, j'ai tellement des opinions... Ça devient dur, le dimanche soir. J'ai tellement des opinions bigarrées là-dessus que je sais pas si je veux me...
Ah, c'est bon.
C'est bon.
Mais... Il y a des hauts et des bas, bien sûr, c'est pas tout est bon, mais je veux dire, c'est quand même.
Moi, ça vaut la peine. Il va falloir que je m'attende. Moi, j'aime bien les zombies, en plus, j'ai aucune raison de pas mettre
Walking Dead. Là aussi, genre le méchant qui n'arrête jamais, qui est quasi indestructible. Enfin, pas quasi indestructible, parce qu'ils sont destructibles, mais. Genre que tu peux pas arrêter, a priori, tu sais.
Ouais, effectivement. Bah, les zombies, c'est tellement une catégorie tellement intéressante à analyser.
Ouais,
bah, les zombies, moi, j'adore.
Probablement pour ça que c'est si populaire.
Moi, je suis une grosse fan de surréalisme.
On les aime.
J'ai adoré Buñuel, j'ai adoré tous les films qui touchent au surréalisme. J'aime Lynch, j'aime le surréalisme. Puis quand j'ai découvert le film Zombie, je me rappelle, c'est un de mes amis qui m'a fait écouter le remake de Romero, Dawn of the Dead. J'avais jamais vu de film de zombie avant ça. C'était vraiment le premier film de zombie.
T'as vu le remake de Zack Snyder?
Ouais, Zack Snyder. Okay. Quand j'ai vu ça...
Le meilleur film de Zack Snyder.
Quand le film est fini, j'ai fait « Wow! » C'est extraordinaire. J'avais trouvé ça formidable parce que c'était la première fois que je voyais un film commercial là, qui suivait le public où est-ce qu'il n'y avait pas de héros qui avait une quête.
Ouais.
Il n'y avait pas de quête. Il n'y avait pas comme genre le personnage de Tom Cruise. Là, c'est genre le bon petit gars qui se retrouve pris dans des affres et tout et qui doit vaincre et monter sa moralité et à la fin, il va gagner la fille, le contrat, tuer la bébite, whatever, puis qu'il va s'être affranchi, etc. Dans le film de zombies, c'est comme ils meurent tous un après l'autre puis ils peuvent rien faire. Ils sont comme pognés là, puis
bon,
ce qui se passe...
Walking Dead, Walking Dead, c'est ils meurent tous les uns après les autres puis le seul but, c'est de survivre finalement.
Tu vis leur survie au jour le jour et puis tu découvres ce que devient l'humain dans des situations extrêmes pareilles, tu sais, finalement.
Ben, ce qui est le cas aussi dans Dawn of the Dead, c'est qu'ils sont vraiment poches, là,
Non, mais c'est pas seulement ça, aussi, tu sais, qu'est-ce qui se passerait dans cette situation-là, tu sais, t'en as qui deviennent, tu sais, horribles, tu sais.
Mais c'est le post-apocalyptique. D'ailleurs, faudrait qu'on commence à faire du post-apocalyptique, on l'a pas fait. T'étais, on va te réinviter.
Le film, c'est quoi, donc?
The Road?
Ouais, The Road, que j'avais vraiment aimé.
The Road,
c'est pas si bon que ça, mais j'aimais trop juste l'esthétique.
Écoute, moi, The Road, j'ai commencé à lire le livre.
Le livre est puissant.
Non, moi, j'ai commencé à lire le livre, et c'est un des rares livres que j'ai arrêté pas parce que je l'aimais pas, c'est que je n'étais plus capable. À un moment donné, je l'ai déjà dit à ce podcast-là, mais j'en reparle pour Pierre-Luc. Désolé, les auditeurs qui m'entendent répéter ça sur The Road, parce que je le répète à chaque fois. Mais ça m'a tellement... Écoute, j'étais juste... C'était trop horrible. C'est trop horrible, pas d'un point de vue, c'est dégueulasse, c'est gore, il se prend un couteau puis se le plante dans l'œil et tout. C'était juste émotivement l'émotion de ce père-là qui essaie de sauver son fils. Puis au début, quand je disais ça, j'étais comme genre... Puis j'entendais que la mère, elle voulait qu'ils suicident tous les trois et tout. J'étais comme, elle est bien conne. Ouais. Puis plus le livre avançait, puis je suis comme, elle avait fucking raison. À un moment donné, il y a une scène où est-ce que je suis comme, non, non, c'est la mère qui avait raison. C'est quoi ce père-là qui est complètement méchant? Mais j'ai pas fini, donc je sais pas ce qui se passe, puis dites-moi le pas, mais c'est vraiment une œuvre qui...
T'as jamais vu le film, alors?
Non, mais non, parce que j'attends de finir le livre. Donc là, je vous dis tout ça, peut-être que cette semaine, il faudrait que je me tape la fin du livre, je suis sûre que
le film est intéressant. Pas, j'ai pas lu le livre, mais j'ai vu que le film, et j'ai adoré le film.
Mais le post-apocalyptique,
c'est...
Le film
est intéressant à plein de niveaux, là, mais... C'est probablement le film le plus noir, que, en tout cas en termes d'esthétique, là, comment que...
Mais, oh, puis même le thème, enfin...
Le thème, esthétique, ouais, la scène des cannibales.
Ouais, c'est terrifiant. Non, mais c'est terrifiant. C'est terrifiant.
Mais dans Terminator, il y a un petit élément post-apocalyptique aussi. C'est la fin.
Oui, c'est clairement post-apocalyptique.
Ben oui, quand tu vois les gens, comment ils vivent, qu'ils mangent...
Sauf qu'il y a une chose que Kyle Reese dit dans le 1, qui passe assez rapidement, puis qu'ils ont exploré dans le dernier, là, dans Genesis, là, qui est un très mauvais film. mais
c'est il l'a dit, que, non, mais je suis assez d'accord.
En fait, c'est quand il est au poste de police, puis qu'il explique au docteur, quand il donne sa version des faits, puis il dit, j'ai été ramené en 84, puis là, il se fait contre-interroger. Puis là, toutes ces réponses sont rationnelles, genre. Puis là, d'ailleurs, ça nourrit la curiosité du docteur, parce qu'il est comme, ah non, si c'était un vrai fou, ce serait pas rationnel, mais tout se tient, genre. Mm-hmm. Puis là, il dit, il nous révèle donc au spectateur que il peut pas retourner dans le passé, dans le futur, et puis qu'il était sur le point de gagner, là.
Ils ont démoli la machine qui les
faisait. Exactement. Ouais, puis dans le fond, le Terminator est la dernière chance de Skynet.
Ouais.
Puis s'il tue le Terminator, ils ont gagné finalement. C'est ça qu'on apprend. Puis c'est quand même pas une mince information, tu sais.
Ouais.
C'est dans le fond, c'est la bataille finale. Puis c'est ça qui est marqué au tout début là, dans le texte au début du film là qu'on voit là.
Ouais, c'est
qu'ils nous expliquent que c'est la bataille ne va pas avoir lieu dans le futur, mais la bataille finale ne va pas avoir lieu dans le futur, mais dans notre présent.
Ah ok,
Moi,
c'est une femme qui sauve l'humanité.
C'est comme donc c'est vraiment la bataille finale. C'est vraiment la fin. Tu sais. Mm. Fait qu'il y a ça à prendre en considération. Dans Genesis, il explore cette question-là. Le film est basé là-dessus, d'ailleurs. Puis il y a une scène, par contre, que je voulais parler, que j'avais pas parlé tantôt, c'est pour dire encore une fois que Cameron, il faisait de la critique. C'est quand que le Terminator va s'armer à l'armurier.
Oui.
Oui.
Ah oui.
Ça, c'est États-Unis 2016. Là, il est super bon, là, il donne tous les noms de guns, tu sais, de manière robotique, évidemment. Puis là, c'est super hot, la réplique qui lui dit, quand il l'exécute. Puis que finalement, les armes des Américains se retournent contre eux-mêmes. Encore dans cette thématique que la technologie se retourne contre nous. Il y a vraiment une critique très, très pessimiste là, chez Cameron, de l'humanité, de notre civilisation, en quelque sorte.
Ouais.
Mais je pense pas que c'est une critique totale. La civilisation, j'irai jamais jusque là, mais il y a des éléments dans ces films qui sont pessimistes, qui sont une certaine forme de nihilisme aussi là qu'on peut voir dans Terminator. Fait que voilà.
Mm. Waouh, on approche les 2 heures, on va peut-être conclure.
Ben oui, on a parlé. Mais écoute, c'est quand même.
On va squatter les oreilles de nos auditeurs pendant longtemps.
C'est une franchise importante.
Oui, c'est vrai.
Il y a beaucoup de choses à dire parce que ça l'a marqué l'imaginaire de ben des gens. Je veux dire, le 2 est intéressant aussi, donc on va en parler.
Ouais, la prochaine fois.
On va en parler la prochaine fois. Puis, ben voilà. Donc, ça valait peut-être 2 heures. Wow. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Wow. C'est le fun d'avoir une analyse profonde sociologique, sociopolitique.
Wow. je consacre ma vie à ça.
Oui.
J'essaie, en tout cas.
Cool. Eh ben, écoute, c'est ça. Donc, la prochaine fois, on va se faire le 2 avec un grand plaisir non dissimulé.
Ouais.
Et en attendant tout ça, est-ce que si on veut te retrouver quelque part sur les internets, est-ce que c'est possible?
Tu veux dire hors de Facebook?
Non, mais donc tu es sur Facebook?
Oui, je suis sur Facebook. Ouais, j'ai aussi une adresse email comme 99% des gens, je crois.
Bah, déjà, en tout cas, on peut toujours rejoindre sur Facebook.
Ouais, mais sur Facebook, on tape mon nom. Hein.
Okay.
C'est ça, Pierre-Luc Genet. Je pense que c'est ça comme ça. Qu'on... C'est mon nom, en tout cas. Mon nom est le même sur Facebook. Mon personnage virtuel est le même. Il n'y a pas de différence, je crois.
Cool, Marie-Louise, c'est toujours...
Marie-Louise point Garriépy sur Facebook.
Ouais, et puis Twitter. C'est ainsi, je suis dans une passe, pas Twitter.
Moi, je sais, mais t'es jamais tellement dans une passe, pas Twitter.
Non, non, c'est pas vrai, j'ai des petits moments.
Ah, OK.
Ça m'arrive, j'ai des petits moments.
C'est bien.
Mais je sais que t'es plus Twitter que moi. Là.
Ouais.
Ouais.
Voilà, moi, c'est toujours Twitter, c'était Linique, comme toujours. Et puis, pour vous abonner au podcast, ben, c'est sur notre site 24quarks.com ou sur iTunes. Et sans oublier de nous laisser des petits commentaires, des petits ratings, tout ça, on apprécie toujours beaucoup. Vous pouvez nous suivre sur Twitter @24quarks et sur notre page Facebook, et puis bien sûr pour nous écrire c'est 24quarks@gmail.com. et on va se quitter avec la bande annonce de Terminator 2, et puis ben, encore merci Pierre-Luc,
merci à vous,
et tu reviens quand tu veux, hein, c'était un plaisir, et merci à tous pour votre fidélité et votre patience parce que ça a été long, et à la prochaine fois, bye bye
bye.
These were taken at the West Highland Police Station, 1984. You were there.
Same model.
These were taken today.
You have to let me see my son. He's in great danger.
New mission. Once, he was programmed to destroy the future.
What it's like to try to kill one of these things.
Now his mission...
Get down!
...is to protect it.
Mom! Come with me if you want to live.
Program complete.
Get away from her, you bitch!
Shall we play a game?
24 secondes.